événement, va se produire un événement, on va diffuser pour eux, rien que pour eux, la nuit dernière, les quatre premières heures de la nuit dernière, en particulier donc, première partie 60 minutes, un entretien entre Jean-Pierre Petit, directeur de recherche au CNRS et astrophysicien, et Jean Pelion, traducteur du langage humite, un entretien d'une heure sur la propulsion des ovnis, tout à fait passionnant. Il y a de nombreux emails et de nombreux coups de fil au standard pour nous demander alors quand est-ce que ça rediffuse. Eh bien, c'est le cas ce soir pour les internautes. Pour ceux qui n'ont pas le web, l'accès au web, ce sera de toute façon dimanche entre 15h et 16h. Et puis pour les internautes également, dans la foulée, après l'émission de Jean-Pierre Petit, c'est Éric Julien que l'on retrouve dans un instant.
Voilà, rendez-vous à 23h.
Effectivement, la propulsion des ovnis. D'abord, y a-t-il plusieurs types de machines? En tout cas, Jean Pelion, lui, nous parle, selon le décryptage qu'il a fait des 1000 pages de documents qu'il a glanés un peu partout, il lui en manque. Et pour lui, la propulsion, elle est de quel type, Jean Pelion?
Ah, bon, alors le sujet est tout de même très vaste. La propulsion des ovnis recouvre à la fois leur progression dans les atmosphères, que ce soit celle de la Terre ou d'autres planètes, puisqu'on suppose que les autres planètes dans lesquelles il y a des êtres vivants ont aussi des atmosphères comparables à la nôtre. Il y a cette progression et il y a aussi la progression dans l'espace interstellaire. Et là, le problème, il est celui des distances et des accélérations. Parce que si on veut pas faire des voyages qui durent 20 ans aller et 20 ans retour, il y a des calculs d'accélération et de distance et de rapport distance-vitesse. C'est très clair, ce qui détermine le temps. Alors donc, on peut, je dirais, aborder le problème en phase atmosphérique ou en phase interstellaire, ou tenter d'avoir un dispositif commun. Enfin bon, là on peut faire tout ce qu'on veut comme imagination, parce que on a quelques éléments, mais pas beaucoup, pas tant que ça, dans les documents UMO, mais au moins ils nous expliquent quelques comportements. L'intérêt de certains dispositifs de certaines idées de propulsion, c'est qu'elles sont valables pour tout fluide, c'est-à-dire aussi vrai dans des liquides qui sont guère que des fluides comprimés, des gaz comprimés, un gaz qu'on comprime il devient liquide. Donc c'est valable dans presque tout ce type d'environnement. Les méthodes qui ont été pensées, soit donc a priori celles qui ont été présentées en particulier par Jean-Pierre Petit, avec les théories assises sur la magnéto-hydrodynamique, la combinaison d'un champ électrique, d'un champ magnétique et d'un gaz ionisé, en fait d'un plasma. Enfin là, c'est sa spécialité, il va pouvoir en parler beaucoup mieux que moi.
Justement, donnons-lui la parole. Cette MHD sur laquelle il travaille depuis plus de 25 ans, mais pour laquelle il est précurseur, est utilisé, disons, secrètement. Ça a fait l'objet d'une autre émission avec lui il y a quelques temps, secrètement par l'armée américaine pour développer des techniques hyper véloces. Cette MHD, Jean-Pierre Petit, elle reprend du service et elle permet de se déplacer, toutefois, en atmosphère, en milieu atmosphérique.
Alors là, il faut, à mon avis, serrer le dossier OVNI à partir des observations. Et il y a une chose quand même qu'on doit retenir, c'est que lorsqu'on se déplace avec la MHD, on aspire l'air au-dessus et on repousse en dessous, un peu comme un rotor d'hélicoptère. Ceci dit, on peut quand même se sustenter en aspirant simplement l'air au-dessus, en le repoussant latéralement. Enfin, quand même, si les machines font 10 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes, ben, si c'est une propulsion de style mécanique des fluides, même si c'est agi par la MHD, qui serait correspondrait à une action beaucoup plus laminaire, il y aurait quand même des courants d'air. Or, prenons un exemple, par exemple, d'une observation quand même relativement fiable, qui est celle de l'amarante, hein, qui a été enquêtée par le CEPRA ou le GEPAN dans les années 80. Voilà un type qui est biologiste, qui est chercheur au CNRS, qui vit dans un petit pavillon de banlieue, il a un petit jardin en face, et il sort, et en face de lui, à 2 mètres de lui, il a une espèce d'objet qui fait 1,50 m de diamètre, et puis qui repose dans l'air, comme ça, qui flotte. Alors, ou c'est un truc d'une légèreté extraordinaire, ou ça pèse, et cependant, il n'y a pas un courant d'air. Les brins d'herbe à côté ne bougent pas. Donc, on pourrait dire que c'est un petit peu cet argument qui, souvent, correspond à des observations, qui fait qu'il y a des gens qui disent... La MHD, ça peut pas tout expliquer. Moi, je réponds effectivement, un système MHD aurait forcément fait des courants d'air. Par exemple, vous avez des sols qui sont couverts de poussière. Il faut trois fois rien pour faire voler cette poussière. Imaginez un hélicoptère survolant une région un peu sableuse, ben, immédiatement, il va créer des tourbillons, des choses comme ça. Or, il y a des ovnis qui se déplacent et les gens, les témoins disent, j'ai vu se déplacer cette masse qui avait l'air assez imposante. Et ça ne soulevait rien du tout. Donc, je n'affirmerai pas que la MHD soit la recette générale pour faire fonctionner ces appareils. Disons qu'à une époque, elle a eu un énorme avantage, c'est qu'elle rentrait dans le cadre de nos connaissances scientifiques. Ça permet de dire une chose est faisable. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça marche. Mais au moins, disons qu'on pourrait faire voler des machines de cette façon-là. Elles auraient des performances assez étonnantes. Et ce qu'on va découvrir dans mon livre, parce que pour garder quand même un petit effet de suspense, dans ce livre, j'ai conservé un certain nombre de secrets qu'on ne connaîtra que le 3 janvier, qui sont la façon dont ces avions hypersoniques américains volent. Et ce sont des idées extrêmement astucieuses. J'écrivais récemment que Aurora, par exemple, vole grâce à l'œuf de Colomb, quoi. Disons que quand on a compris comment fonctionnait ce dispositif, ça paraît évident, quoi. Ça paraît évident, enfin, pour un spécialiste, pour un physicien. Donc la MHD, c'est quelque chose qui est devenu opérationnel, qui fonctionne. Mais je ne pense pas que ça recouvre tout le phénomène OVNI, y compris dans le comportement intra-atmosphérique, dans l'air. Dans le vide, évidemment, la MHD ne peut pas fonctionner, puisque pour que la MHD fonctionne, il faut que la machine puisse ramer sur quelque chose. Si elle n'a pas de fluide autour, elle ne peut pas faire agir ses forces électromagnétiques. Donc, j'ai déjà pas mal parlé dans mon livre de propulsion MHD, c'est pas une chose quand même qui surprend peut-être les auditeurs qui m'entendent en ce moment, et je préférerais aborder quelque chose dont j'ai moins parlé, qui est ce problème des voyages interstellaires. Et Pognon, tout à l'heure, parlait de mise en vitesse, parlait d'accélération, parlait de distance, et là, effectivement, si on est mono-univers, si on pense qu'il n'y a qu'un seul univers, avec une valeur de la vitesse de lumière, bien là, on est terriblement coincé, parce que cette vitesse de lumière, c'est quelque chose de très lent. 300 000 km par seconde, ça ne permet pas de faire grand-chose. Si on se balade même à 90% de cette vitesse, eh ben, il faut des années pour aller rejoindre des systèmes qui pourraient éventuellement être habités. Donc ça pose un sacré problème. Ça pose même un problème, je dirais, de communication. Imaginez des expéditionnaires qui viennent d'une planète qui se trouve à 10, 15, 20, 30 années-lumière. Ils atterrissent sur la Terre. Qu'est-ce qu'ils font? Le type décroche un micro et il dit « Allô, la base, nous venons d'arriver ». À ce moment-là, la phrase met 30 ans aller, 30 ans retour. 60 ans après, il reçoit la réponse « Entendu, continuez ». Donc, où les gens qui viennent nous visiter ne communiquent pas avec leur base, ou ils communiquent de manière tout à fait autre. Donc là-dedans, il y a des problèmes qui se posent, qui sont des problèmes d'expansion de notre physique. Et depuis 25 ans, personnellement, j'ai toujours travaillé sur le thème de la gémellité cosmique, qui a été développé pour la première fois par Andrei Sakharov, scientifique soviétique, qui est mort maintenant, Et il n'y a pratiquement personne qui a chevauché cette idée, à part Sakharov, puis après moi. Il y a quelques types qui commencent à peine à effleurer le sujet. Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce qu'on peut penser qu'il y ait non pas un univers, mais deux? On pourrait dire que Sakharov, la question, je dois le dire, est posée de savoir si Sakharov a eu ou non un contact avec les humites. Moi, j'aurais fortement tendance à penser que la réponse est oui, du moins qu'il a reçu des documents. Parce qu'il y a des éléments de ses travaux qui ont l'air tellement inspirés par des lettres que je connais. Évidemment, des gens pourront dire que ces lettres sont postérieures et ont été conçues à partir des documents de Sakharov. Des travaux de Sakharov, je crois, qui datent de 67. Il y a un livre qui, maintenant, n'est difficilement trouvable. Si, je crois qu'il est diffusé par des éditions qui s'appellent Economica. Ce sont les œuvres scientifiques d'Andrei Sakharov qui avaient été éditées au départ pour les éditions Anthropos. Mais ce n'est pas lisible par quelqu'un d'autre qu'un spécialiste.
Donc Jean-Pierre Petit, soit Sakharov était inspiré par les lettres, soit il a inspiré la rédaction des lettres.
Oui, mais il y a une chose amusante, c'est que il y a dans ces lettres des choses que Sakharov n'a pas exploitées. Alors là, ça pose un problème, parce que moi j'ai toujours eu l'impression, parce que comme je connaissais les documents de base de cosmologie, qu'il avait reçu les lettres 1, 2, 3, mais pas la 4, par exemple. Il y a une pièce qui lui manquait dans son travail. Et je me suis rendu, il y a plus de 25 ans, 20 ans, en Russie pour essayer de le rencontrer. Et malheureusement, quand le hasard m'avait fait arriver à Moscou, quand j'ai voulu rencontrer Sakharov, je suis tombé d'ailleurs sur un type maintenant qui est devenu très célèbre, qui est l'Inde, qui est venu me voir à l'appel national. L'Inde, c'est de l'inflation. L'Inde était beaucoup plus jeune à l'époque. Et il m'a dit, ce travail aurait beaucoup intéressé Sakharov. Malheureusement, il est parti à Gorki. Vous savez peut-être que Sakharov avait été interné à Gorki, dans un hôpital psychiatrique pendant des années. Et après, lorsque il y a eu cette libéralisation du système, il a été libéré. Mais quand il était parti là-bas, j'ai demandé pourquoi il avait choisi Gorki. Il a dit parce que là-bas, je connais tout le monde et puis au moins, on fout dans la paix. J'ai pas eu de chance parce que il n'était pas à Moscou quand je suis venu. Maintenant, dans les travaux de Sakharov, on lit des choses comme par exemple les flèches du temps dans les deux univers sont en opposition. Ça, c'est quelque chose de très, très, très bizarre. Comment est-ce qu'on peut imaginer un univers qui soit rétrochrone où le temps chemine à l'envers? Bon. J'ai pas mal dégrossi ça dans mes travaux de cosmologie qui sont malheureusement pas accessibles aux premiers venus et qui sont sur le site internet. Mais ce qui est important, c'est que, et ça c'était dit dans les textes du mythe, c'est que la vitesse de la lumière dans l'univers jumeau est différente. Elle n'est pas a priori égale. Et elle peut être bien supérieure. Alors, à ce moment-là, on débouche sur une idée. On peut respecter les lois de la relativité en disant on est tenu de cheminer en dessous de la vitesse de la lumière dans l'univers où on se trouve. Alors, d'abord, je vais donner une petite explication là-dessus. Bon, j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Tout est relatif sur la relativité, qui se trouve aussi sur le CD que je diffuse, etc., qu'on peut trouver sur mon site. Et ça explique une chose que le public a certainement du mal à appréhender, c'est que cette limitation de la vitesse des objets à la vitesse de la lumière est une limitation d'ordre géométrique. Ce n'est pas parce que lorsqu'on arrive à la vitesse de la lumière, il y a une espèce de policier cosmique qui vous verbalise en disant « vous n'avez pas le droit d'aller plus vite ». Et je disais dans ma bande dessinée que aller plus vite que la vitesse de la lumière géométriquement, c'est comme aller plus profond que le centre d'une sphère. Vous ne pouvez pas aller plus profond sur Terre que 6400 km parce que vous êtes au centre de la Terre. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Et là, c'est pareil. La relativité, c'est une limitation d'ordre géométrique. Donc, elle est très forte. Donc, les gens qui disent « Et si on allait plus vite que la vitesse de la lumière ?» ça ne tient pas debout. C'est comme de dire « Je suis allé plus profond que le centre de la Terre. » On dira « Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas sur Terre, vous êtes ailleurs. » Parce que ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer deux milieux où les vitesses de la lumière sont différentes? Alors, j'ai donné dans un bouquin, déjà il y a 15 ans de ça, une image qui n'était pas trop mauvaise en comparant le milieu aérien et le milieu aqueux. Imaginez par exemple que vous vouliez faire le voyage entre Marseille et Alger. Je je ne sais pas combien de kilomètres, mettons qu'il y ait 200 ou 300 kilomètres de mer à traverser. Alors, on peut cheminer soit dans l'air, auquel cas la vitesse du son va être de 340 mètres par seconde, soit on peut cheminer dans l'eau, auquel cas la vitesse du son dans l'eau est, je crois, de 4500 mètres par seconde. Alors, c'est intéressant parce que si on est astreint dans une espèce de physique un peu étrange à ne pas dépasser les vitesses du son, eh bien, on va aller à des vitesses complètement différentes selon qu'on se déplace dans l'air ou selon qu'on se déplace dans l'eau. C'est-à-dire, imagine quelqu'un qui est Betelgeuse et qui voit arriver un type qui vient de Marseille et lui dit « Mais combien de temps avez-vous mis à voyager ?»« Bon, j'ai fait le trajet en un quart d'heure. » »« Comment, un quart d'heure ? Mais c'est pas possible, vous êtes allé plus vite que la vitesse du son. » »« Non, j'étais inférieur à la vitesse du son, mais dans l'eau. J'ai pris l'autre milieu. » Donc, première chose, disposer de deux univers qui ont des vitesses de la lumière différentes, de manière à ce que, en respectant les règles de la relativité dans le deuxième univers, on puisse gagner en vitesse. Ensuite, autre chose, et ça c'est plus difficile à comprendre, que les distances soient authentiquement plus courtes. Et ça c'est dit dans les textes du mythe. Et moi j'ai modélisé tout ça dans les travaux de cosmologie. Je réénerve pas mal mes chers collègues, mais regardez la cosmologie contemporaine. Regardez par exemple, je crois que c'était dans le numéro du mois dernier de Ciel et Cosmos, la cosmologie est en train de s'effondrer, le Big Bang fait haut de toutes parts. Je crois que on arrive à une sorte d'échéance. Je me rappelle ce que disait Hubert Reeves il y a un an ou deux, que le modèle standard, en dépit de ses défauts, modulo, quelques petits aménagements, bon, ça va marcher. C'est pas vrai, on peut pas le rapiécer. Si vous lisez l'actualité scientifique, vous verrez que ce modèle cosmologique qu'on a chevauché pendant 50 ans, maintenant ça marche plus, mais plus du tout. Et plus il y a d'observations, plus il y a de dissonances. Cette histoire de cosmos qui réaccélère à très grande distance, ce qui est attesté par les mesures de redshift sur les supernovées, on ne peut pas en tenir compte avec le modèle classique. On est obligé d'invoquer des trucs comme l'énergie noire, le truc, le machin. Vous voyez que là, on est dans une phase de la connaissance scientifique où quelque chose va se passer, quelque chose va craquer. Et moi, je pense que ce qui va craquer, c'est la conception géométrique que nous avons du cosmos. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est extrêmement difficile à faire pour les scientifiques. Je me rappelle une fois avoir lu dans Scientific American, un texte qui n'avait pas été traduit en français d'ailleurs, et où il y avait un philosophe américain qui disait, je vais peut-être vous choquer, mais je ne crois pas qu'il y ait deux univers, ou quatre, ou 36, mais je crois qu'il n'y en a qu'un. C'est pas une phrase de philosophe. Et c'est vrai que c'est étonnant de dire, il n'y a qu'un seul univers. Effectivement, si on admet qu'il y en a, disons, au moins deux, alors, comme disait l'Empurlu dans une bande dessinée, si cet univers est le meilleur des univers possibles, que sont donc les autres? Comment est donc ce deuxième univers? Alors, si on lit mon livre « On a perdu la moitié de l'univers » chez Albin Michel, on verra que, dans les idées que j'ai développées, dans ce second univers, il n'y a pas les vies, il n'y a même pas d'étoiles. C'est un monde... qui n'a pas engendré des structures aussi riches que dans le nôtre. Par contre, les distances sont plus courtes. Et alors, là, c'est très difficile d'imaginer que pour aller d'un point A à un point B, on prend un mètre à ruban, quand on prend le premier chemin, il y a telle distance, mais quand on prend le deuxième chemin, il y a une distance plus courte. Ça, c'est difficile à comprendre. J'ai essayé de trouver une image. Vous connaissez le mythe de la caverne de Platon. Platon a écrit... un livre magnifique où il explique, et ça a frappé tous les philosophes pendant des siècles, que ce que nous appelons le réel, pour lui, c'est...
des ombres projetées.
Ce sont des ombres projetées sur un mur. Nous sommes des ombres à trois dimensions dans une espèce de salle de cinématographe. Quoi. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que, au lieu d'avoir un écran de projection, il y en a deux. Et ces deux écrans de projection correspondent à une même réalité qui est soit projetée dans un univers, soit projetée dans l'autre. Alors, on peut assez bien imaginer qu'on ait un film et on place un système optique qui le projette soit sur un écran qui se trouve à droite, soit sur un écran qui se trouve à gauche. Et vous imaginez aussi très bien que suivant la distance de l'écran à l'appareil de projection, la taille de l'image va être complètement différente.
Mais j'ajouterais qu'avec les lunettes adéquates, on aura la stéréo.
Mais pourtant, je ne voudrais pas monopoliser le temps de parole parce que je
Non, je vais interroger Jean-Paul Lyon sur le même sujet, bien sûr.
Oui, bien sûr. Mais tu vois, l'idée, c'est que ces deux univers correspondent à des écrans de projection. Et à ce moment-là, passer d'un univers à l'autre, ça consiste à se projeter dans le deuxième univers. Et pour ne pas passer des heures à m'étendre là-dessus, c'est quand même assez complexe, tout à l'heure, Paulino a parlé d'accélération. Et moi, je pense, je suis convaincu que pour ces voyages interstellaires, les ovnis n'ont pas besoin de propulseurs. Et ça, c'est le truc peut-être le plus étonnant. Pas besoin de propulseurs, parce que s'ils avaient un propulseur, il faudrait qu'ils aient un propulsif, il faudrait qu'ils se propulsent par réaction, quelque chose comme ça. Et ça fait déjà pas mal d'années que j'avais envisagé ça, c'est que la mise en vitesse des objets correspond simplement à la conservation d'énergie. Si vous êtes fait de particules, la nef dans laquelle vous trouvez est faite de particules, et ces particules, elles sont associées en physique quantique à une fonction d'onde. Et la longueur d'onde de ces particules, on peut prendre par exemple la longueur d'onde de Compton. Bon. Donc nous sommes des tas de petites cordes vibrantes, comme ça, avec des petites oscillations en tous les coins. Et on prend tout ça, et on l'envoie dans le deuxième univers, et cet univers est plus petit, c'est l'univers Gulliver, il est plus tassé. Donc à ce moment-là, si l'univers est plus tassé, ça veut dire que mes atomes d'hydrogène, mes atomes de carbone, mes électrons, tout ce qui constitue mon corps et mon vaisseau, vont être plus grands. Je vais me retrouver comme Gulliver dans un pays de nains. Or, une particule, si sa longueur d'onde s'accroît, c'est qu'elle a perdu de l'énergie et de la masse. Et la seule façon de lui faire conserver son énergie et sa masse, c'est de la mettre en vitesse, auquel cas sa longueur d'onde va se raccourcir par effet relativiste. Donc, je considère que je m'envoie, ou j'envoie une particule qui fait partie de mon corps ou de mon vaisseau dans le deuxième univers, et que cet univers est deux fois plus petit, eh bien, pour pouvoir conserver mon énergie, il faudra que cette particule apparaisse dans le deuxième univers, à 86% de la vitesse de la lumière dans ce deuxième univers, qui peut être plus élevé, de manière qu'elle raccourcisse. Donc, ce que j'imagine, c'est que sans un traitement préalable des particules avant de passer dans le deuxième univers, si on envoie ces particules dans le deuxième univers, elles vont se retrouver avec des vitesses qui vont être dans toutes les directions. Donc c'est une bombe. Disons que dans les trains, dans le temps, il y avait il est dangereux de se pencher en dehors. Bon, ben là, c'est vous êtes prié de faire telle opération avant de passer dans le deuxième univers. Sinon, ben, à ce moment-là, vos particules vont être animées de vitesse relative dans tous les sens et vous allez exploser, quoi. Ce traitement préalable, moi, ça me semble être l'alignement des spins. Et c'est là que ça nous amène à regarder des images que Paulio connaît très bien et que connaissent tous les gens qui ont vu les documents homo. C'est la coupe de la nef humide. Et la coupe de la nef humide, elle est un peu comme deux assiettes à coller. Il y a deux assiettes à coller qui constituent la xodida, c'est-à-dire la coque, et à l'intérieur, il y a une cabine toroïdale. Alors, il y a un truc quand même, moi j'ai mis, je dirais 20 ans, à m'étonner de ça. Parce que les textes humides disent, à l'intérieur de mon nef, nous avons une cabine flottante en forme de tore qui peut être mise en rotation de manière à créer une pesanteur artificielle. Et quand on réfléchit à ça, on s'est dit tout d'un coup, mais c'est abominablement compliqué. Surtout que pour créer une pesanteur artificielle, ne serait-ce que d'un G, sur un engin qui fait 13 mètres de diamètre, on n'a pas besoin de le faire tourner très vite. Donc, pourquoi faire tourner ce tore à l'intérieur d'une coque, serait beaucoup plus simple de faire tourner le vaisseau lui-même. Et moi je pense, et ça je l'ai souvent trouvé dans les textes humides, le texte ne dit pas ce que on aurait l'impression qu'il veuille dire de prime abord. Et on a, en inversant les choses, on se dit, mais cette cabine flottante, elle est désolidarisée du vaisseau. Mais en fait, ça n'est pas pour qu'elle tourne, c'est pour qu'elle ne tourne pas. N'est-ce pas? Je prends le dessin qui se trouve sur la couverture de Paulio, je me dis le toroïde dans lequel se trouvent les passagers. Je le laisse immobile. N'est-ce pas? Je fais tourner la coque à très grande vitesse. La coque est toupie. Donc, question, pourquoi faire tourner cette coque à très grande vitesse? Réponse, pour créer un champ magnétique uniforme dans tout le volume. Et on ne peut pas le créer avec des solénoïdes, parce que si on prenait des solénoïdes, le champ ne serait pas homogène au voisinage des conducteurs. Et la seule solution pour créer un champ magnétique uniforme dans un volume, c'est de mettre des charges électriques à la surface face de cette coque et de la mettre en rotation. Et vous avez même, dans le document qui se trouve dans les textes uniques, la façon de mettre cette coque en rotation. Quand vous regardez sur ce dessin, au bout, vous avez une structure torique qui est périphérique, qui est remplie de gaz. Et ce gaz peut être mis en mouvement. Donc, je ne sais pas si les gens visualisent bien la chose, ils ont la soucoupe, ils ont une espèce de tube qui fait le tour de la soucoupe qui est tout à fait au bord, et ce tube est rempli de gaz, et ce gaz on peut ioniser et on peut le mettre en rotation en utilisant une technique style accélérateur de particules. Si on le met en rotation dans un sens, la coque va tourner dans le sens inverse. Donc on a une possibilité de faire réagir le système pour faire tourner la coque rapidement. Et si cette coque on l'a électrisée, on va pouvoir créer un champ magnétique important qui va aligner les spins. Et quand les spins des particules sont alignés, à ce moment-là, je pense qu'on peut procéder au changement spatial.
Mais Jean-Pierre Petit, ça c'est un frisbee lancé dans le jardin de Jean-Paul Lyon. Est-ce que Jean-Paul Lyon reçoit bien le frisbee sur d'abord sur le thème de l'accélération?
Juste une objection sur la dernière solution qu'il présente, sauf si c'est juste au moment de changer d'univers. Mais quand on voit des photos comme celle de certains ovnis, et bon, moi je suis un fanat des photos prises à San José de Valderas, l'objet il tourne pas, il y a un symbole dessus, et manifestement le symbole il a pas tourné, il tournait pas. Hein. Les témoins l'ont pas signalé comme tournant, de même que Peña Aluche, c'est pareil, hein. Quand il a vu l'engin, il a pas dit non plus que le dessin tournait, puisqu'il a pu le dessiner. Alors, bon, la rotation de l'engin, je suis pas sûr, à moins que ce soit une rotation à l'intérieur de la couronne, mais l'engin lui-même, enfin je veux dire, la coque extérieure, hein, le massif. Hein.
Parenthèse, Jean-Paul Lyon, ces photos, cette série de photos, elle est contestée ou non par Jean-Pierre Petit?
Alors, bon, je ne sais pas, parce qu'il faudrait voir. Je crois qu'il a écrit dans un de ses livres qu'il y avait eu une lettre humide qui disait que c'était un faux. Moi, je ne l'ai jamais retrouvée, cette lettre. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre?
Ben, ça, je crois qu'il faut vous demander à Fariol ce genre de choses, parce que c'est lui qui m'avait parlé de ça. Et, ben, moi, je ne suis pas un bon compilateur, parce que déjà, j'ai tendance énormément à égarer les choses chez moi. Donc, je n'ai pas du tout de dossier humide classé par an, par ceci, par cela. Ce qui est à peu près rangé chez moi, c'est ce qui se trouve dans mon ordinateur. Donc là, j'arrive à me voir à m'y retrouver. Donc, je ne serais pas capable de sortir ces documents comme ça, vol pour point. Je me souviens qu'effectivement, les humides avaient parlé d'une opération de désinformation avec des documents qui avaient été préparés de longue date.
Ouais. Histoire
qui n'est pas claire.
Non, mais de toute façon, sur la désinformation, c'est vrai qu'il n'y a rien de clair dans ces documents, sauf peut-être que il faut peut-être qu'on se méfie maintenant de certains documents dont, bon, peut-être que les signatures peuvent être contestables. Je suis sur une piste là-dessus. Hein. Mais autre chose, je veux dire, la rotation du système remet en cause complètement le système décrit de pilotage de linéaire, enfin des fréquences de résonance par le réseau complet de tubulures avec des alliages liquéfiables pour faire varier les fréquences de résonance aux endroits où ça peut être dangereux et mener à la rupture. Si l'engin est en rotation à grande vitesse, tout ce système-là, il est complètement dans le vent, ou alors il faut des super ordinateurs pour tout gérer en permanence.
Non, mais au contraire, c'est justement en mettant un objet comme ça en rotation qu'on a des trains d'onde et qu'on a des vibrations, et qu'il faut pouvoir les contrôler. Ça me paraît assez cohérent, au contraire.
Oui, mais alors la combinaison des forces, là, jolie, hein, finalement.
Ah oui, mais jolie, débutant dans l'histoire. Et cette idée de matériaux intelligents qui modifie son module Young, qui modifie ses paramètres mécaniques localement, c'est complètement génial. Et ça date de 67. Et vous savez une chose, c'est que si on savait fabriquer des métaux, des matériaux comme ça, les avions pèseraient 10 fois moins lourd.
Oui, non, ça on est bien d'accord.
C'est mieux.
On pourrait traiter les fréquences de résonance autrement. Hein. Pour l'instant, moi, je suis un petit peu hésitant sur cette question de mise en rotation de la coque extérieure.
Hein. J'ai
pas forcément les mêmes éléments que vous. Bon, sur le déplacement interstellaire, il est évident que doivent intervenir d'autres considérations que nos propres considérations mécanistes, même relativistes d'aujourd'hui, dans un seul univers. Hein. On n'arrive pas à faire la synthèse entre les énergies dépensées, les distances et les vitesses.
Mon idée est pas mauvaise.
L'idée du changement d'espace, oui, non, c'est, ça fait, enfin, je crois.
Mais le fait qu'il n'y ait pas de propulseur.
On est d'accord, n'empêche qu'il y a quand même un problème d'orientation de l'axe de déplacement, parce que c'est pas isotrope. Enfin, je veux dire, la variation d'énergie, comme vous l'avez dite, a priori, la répartition de la nouvelle énergie, elle est isotrope. Il va falloir quand même la canaliser dans une direction déterminée.
Qui est charbonnétique, à mon avis.
Pour avoir le déplacement dans l'axe voulu, même si ce déplacement est, on peut l'imaginer comme le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire pas forcément tout à fait une trajectoire rectiligne, mais des courbes combinées. C'est une option, mais il y a quand même bien une impulsion initiale. On peut pas, a priori, ça voudrait dire qu'avec un point de départ, on pourrait aller, on peut pas aller n'importe où, les énergies sont différentes. Il faudrait choisir un univers différent en fonction de la destination.
Non,
pour
non,
avoir
non, non.
La
direction de la vitesse, elle est fixée par l'orientation du champ magnétique.
Pour par l'orientation, mais il y a le module aussi.
Oui, il y a le module, bien sûr. Mais le module, on n'en est pas maître. Hein. Je veux dire que dans cette histoire-là, je dirais que chez nous, il est très difficile d'atteindre des vitesses relativistes, mais tandis que quand on est passé dans le deuxième univers, ça coûterait extrêmement cher de ralentir. Vous comprenez?
Oui, je comprends bien, oui, parce que c'est aussi de toute façon, c'est une dépense énergétique.
Oui, mais dans le deuxième univers, quand on y va, on ne peut pas être immobile, c'est pas possible.
Oui. Bien sûr, puisqu'il y a recomposition de l'énergie dans l'environnement nouveau.
Oui, sous forme de vitesse.
Il y a quand même à piloter la direction, sachant qu'en plus, les notions d'espace ne sont d'espace, j'entends, de repères tridimensionnels, sont absolument plus les mêmes, et donc il y a toute une gestion en plus à faire. Hein.
Les humides expliquent un petit peu ça. Je veux dire que dans ce genre de choses-là, on ne peut pas prendre de virage, on est bien d'accord.
Ah oui.
Lorsqu'on est dans le deuxième univers, on a acquis une vitesse,
ouais,
et on s'y tient. Et ce qui fait que si on veut corriger cette trajectoire, on retourne dans l'univers de départ, on fait le point avec 1, 2, 3, 4 sources. Vous vous rappelez que dans les textes les humides disent il y a des sources radioélectriques qui nous permettent de faire le point très précisément.
Ouais, ouais.
Et voilà, le navigateur, enfin, c'est pas le navigateur, c'est la machine qui se débrouille automatiquement, elle fait le point, elle se dit, oh, il faut que je change un petit peu de direction. Alors, elle varie sa direction de champ magnétique, passe, ça repasse dans le deuxième univers, et dans le deuxième univers, on a une trajectoire sous forme de ligne brisée. Moi, c'est comme ça que je vois. Il n'y a pas de virage, il n'y a que des lignes brisées.
Oui, oui, tout à fait. Oui,
et ces lignes brisées sont faites à vitesse constante.
Oui, le déplacement est à vitesse constante. Et dans je dirais que là c'est, on comprend assez simplement qu'il n'y a pas besoin d'un nouvel apport d'énergie dans la mesure où quelques frottements éventuellement associés aux impacts micrométéoriques, tout ça c'est marginal, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, bon, n'empêche qu'il y a une impulsion au départ, une quantité d'énergie à fournir. Si on a un engin de 40 tonnes comme celui que j'ai pu calculer d'après les traces trouvées à Aluche, et qu'il faut faire voyager à une vitesse, on va dire, mettons un tiers luminique de l'univers en question, ou de notre univers au départ, puisqu'il y a équivalence finalement énergétique, hein. Ça fait quand même très très lourd en énergie, ça.
Non, Jean. Prenez un engin de 10 tonnes, 20 tonnes, 100 tonnes, ce que vous voulez. Il est immobile. Lorsque vous le mettez dans le jumeau, il va à 500 000 km seconde, par exemple. Boum, immédiatement. Il n'y a pas à lui communiquer l'impulsion. Il passe de l'immobilité absolue à une vitesse relativiste par simple conservation d'énergie. Bah, c'est comme ça que je le vois. Ces paramètres de vitesse initiaux n'ont pas de pertinence.
Pourquoi pas? N'empêche que le passage d'un univers dans l'autre, lui, il est consommateur d'énergie.
Oui.
Enfin, au moins, il faut la fournir pour la récupérer de l'autre côté.
Alors, vous avez vu, c'est vrai que je vais publier dans mon livre une lettre humide que j'ai reçue, je crois, en 95, et que les gens ne connaissent pas, donc ça les amusera de voir. Mais je crois que, de toute manière, je vais sortir un peu toutes celles que j'ai connues et je les mettrai, je crois, sur un site. Bon, mais les gens vont être très déconcertés parce que il y a beaucoup de lettres qui sont remplies de schémas géométriques que moi je ne comprends pas, hein, et que c'est peut-être quelqu'un comprendra. Hein. Enfin, la lettre que j'ai publiée, c'est une des plus claires. Hein. Il y a des choses sur la structure des nefs, sur la façon de...
Vous avez vu tous les deux le film Contact?
Moi, je ne l'ai pas vu, mais je connais un peu l'histoire. Mais
oui, parce que les messages reçus dans le film Contact ne peuvent pas être lus de manière plane, mais l'assemblage cubique leur donne tout à coup un sens.
Effectivement, je veux dire que J'avais pas pensé à cette éventualité, c'était le mode de lecture, mais effectivement. Bon, ben là, je crois que, comme j'ai planché sur ces feuilles pendant longtemps sans sentir grand-chose, je crois que la meilleure solution consiste à mettre en circulation. Vous avez que quelqu'un a une idée. Parce que tout
C'est un problème, Jean-Pierre, tu nous demandes.
Oui, bien sûr. Non, mais il y a un truc. Moi, je suis content d'être avec Paulion ce soir, parce que avant même l'émission, je me disais, ah, je me sens moins seul. Maintenant que
oh, c'est gentil.
Non, mais
la lecture tridimensionnelle des messages, c'est amusant, parce que sur la liste Humoscience, on est en train... plusieurs personnes ont commencé à soulever un problème de symétrie. En fait, bon, dans les 18 concepts que j'ai trouvés, qui sont les 18 éléments du langage, il y en a deux qu'on peut considérer, enfin, il y en a, oui, deux qu'on peut enlever parce qu'ils ont un rôle vraiment un peu à part, qui est la répétition d'une part, et puis le concept O qui représente le seul objet, enfin, il y a vraiment dans ce système. Il en reste 16. Et ces 16-là, peuvent être apparemment agencés sur des logiques qui leur donneraient une lecture, qui pourraient leur donner une lecture dimensionnelle cubique, tridimensionnelle. Et donc, bon, il y a des choses intéressantes sur ce plan-là. Hein. Je ne savais pas cette histoire de contact.
Non, mais le film, effectivement, disait qu'il y avait un message et qu'il y avait une façon de lire ce message qui n'était pas...
Oui, c'est-à-dire, en haut de chaque page, il y a le symbole d'un coin, un coin ouvert.
Ouais.
Et le sponsor de la mission s'aperçoit, lui, avant tout le monde, que si on assemble les coins et que l'on plie à 90 degrés, à ce moment-là, on a un cube, on a affaire à un cube qui, par transparence, donne signification aux faces opposées.
Ah, d'accord. Ah, c'est chouque.
On pourrait y avoir ça en plus, alors.
Oui, oui. Mais bon, enfin bon, ça c'était en passant. Mais,
oh, mais donc... j'ai une remarque à faire quand même en passant aussi. Bon, il y a aussi un scientifique qui est Pierre Midi, qui s'est intéressé à cette affaire au bout depuis longtemps et avec qui j'ai travaillé depuis pas mal de temps. D'ailleurs, on vient de publier un nouvel article scientifique dans une revue, tous les deux. Et Midi m'a rappelé une chose. Vous avez peut-être vu que des technologies nouvelles sont apparues, basées sur des micro-ondes pulsées, et que les Américains comptaient utiliser pour localiser les grottes dans lesquelles le village Saddam Hussein pourrait avoir caché toutes ses usines pour fabriquer des armes de destruction massive. Donc on est capable de sonder le sol avec des micro-ondes pulsées pour trouver des cavités. Et Midi me disait, cette technologie va très vraisemblablement être assez vite dans le domaine public, comme le GPS, hein, et à ce moment-là, on va être en mesure de trouver la grotte humide sur la crête de la plage. C'était mieux. Parce que là, on savait pas comment faire. Mais peut-être que c'est très facile. Alors, avis au sponsor, on s'achète une machine à micro-ondes pulsée, on va sur la crête de la plage et on trouve la grotte. Génial. Hein.
Pourquoi pas? Après tout, mais c'est peut-être pas sur cette crête-là. Hein.
Oui, peut-être. Peut-être.
Ouais. Ah bah oui, là, il y a encore à chercher. N'empêche que, finalement, oui, bon, vous avez parlé de l'univers et de notre jumeau. En fait, la théorie humite fait l'allusion à beaucoup plus qu'une paire d'univers. En fait, il parle d'une infinité de paires d'univers.
Ouais.
Et donc, les autres interviennent-ils dans les déplacements ou pas?
Pour moi, c'est pas une chose claire. Disons que c'est comme la MHD, je suis tout sauf j'espère ne pas être un bonhomme borné, obtus, qui s'accroche à quelque chose. En particulier, si tout d'un coup, un gars de 35 ans me disait, cher monsieur Petit, ce que vous avez fait est très méritoire, mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche, je vais vous expliquer, c'est complètement autrement, et tout ce que vous avez fait, ça sert à rien. Ben, je dirais, écoutez, très bien, je prends un crayon, je note, expliquez-moi, hein, bon. C'est tout à fait possible. Simplement, si moi, j'ai joué un rôle de pionnier là-dedans, c'est simplement pour construire un discours disant les ovnis, ça peut ne pas être complètement idiot. Et ça peut être fécond. Hein. Maintenant, cette fécondité, j'ai peut-être trompé de direction dans laquelle chercher. Bon, là, j'ai envisagé une croisière en jouant sur le jumeau. Ensuite, vis-à-vis de cette palette d'univers, il faut se rappeler une chose, c'est que chez les humides, c'est des univers qui sont tridimensionnels. C'est curieux, hein.
Ouais.
Pas quadridimensionnel, mais tridimensionnel. Et je me suis demandé si dans cette façon de décrire, c'est là qu'il faudrait peut-être revenir sur la sémantique, sur la façon, et ça vous regarde en tant que spécialiste de la langue, hein, si cette déclinaison et toute cette espèce d'éventail d'univers, ça ne se rattache pas aux états successifs de l'univers.
On peut le penser, mais en fait, pas vraiment, dans la mesure où, vous l'avez senti tridimensionnel, mais en réalité, la dimension temps intervient, elle aussi, comme définissant le pas d'évolution, l'incrément élémentaire différentiel de chaque dimension,
oui,
dans chaque univers. Et là, c'est le temps qui sert de base.
Oui.
Et donc, en fait, chaque univers a son propre incrément temporel, différentiel. Et c'est ça qui peut, dans le modèle des fameux Ibozoü, permettre de faire le lien avec la vitesse de la lumière, puisque chacun de ces univers a aussi une vitesse de la lumière différente.
Mmh. Oui, mais c'est pas incompatible, parce que prenez le modèle cosmologique que j'ai construit à partir des textes du mythe. Dans ce modèle cosmologique, les constantes de la physique sont variables. En particulier, la vitesse de la lumière était plus importante dans le passé.
Ouais.
Donc, si on considère l'univers il y a 100 000 ans, il y a 1 million d'années, il y a 1 milliard d'années, etc., chaque fois, ça constitue des tranches qui sont à des époques différentes et dans lesquelles une vitesse de la lumière est différente.
Ouais.
Donc, ça cadre à peu près. Je ne veux pas dire que j'ai raison.
Non, mais ça donnerait une histoire qui serait, elle aussi, incrémentée de façon discrète.
Oui. Ouais. Mais il y a quelque chose à comprendre. Et je veux dire que, est-ce que le discours est agencé de façon à brouiller un petit peu les pistes? Moi, en particulier, quelquefois, j'en ai l'impression. Parce que dans cette histoire de Nef avec sa coque et avec son toroïde tournant,
ouais,
j'en suis pratiquement sûr. C'est tellement idiot de faire tourner un toroïde dans un truc. C'est pas fait pour ça, c'est pas possible. Hein?
C'est vrai qu'il y a souvent des choses qui sont présentées de façon apparemment contradictoire, parce qu'on donne tout le raisonnement n'est pas donné, mais les choses qui peuvent être interprétées de façon contradictoire sont laissées pour laisser planer un doute.
Hein. Voilà. Ouais. Vous remarquez une chose, ça, que dans les textes du mythe, très souvent, un système a plusieurs fonctions. Le même système sert à créer un champ électrique pour éloigner les particules ionisées. Il sert aussi à changer la couleur. Hein. Rappelez-vous que les signes qui sont sur l'engin,
ouais,
sont faits parce qu'on fait de, je sais pas, l'électroluminescence.
Oui, c'est ce qu'ils disent, oui, de l'électroluminescence.
Ce qui fait que le fait que l'image reste immobile, c'est pas du tout incompatible avec le fait
avec la rotation. Sous cet angle-là, c'est vrai. Oui, oui, ça peut être asservi. Hein.
Oui,
ça c'est vrai. En tous les cas, cette électroluminescence, elle a été clairement revendiquée sur l'observation de Voronezh. Hein,
Et alors, l'électroluminescence, ça permet de faire apparaître des symboles sur une coque, mais ça permet aussi de faire des tas d'autres choses. Et le même gadget, c'est à plusieurs fonctions.
Ouais.
Et alors, comme il y a plusieurs fonctions, mais plutôt qu'il y en ait quatre, eh bien, on présente une fonction qui est complètement secondaire, et on fait croire aux gens que c'est la fonction essentielle. Ce qui évite de leur trop leur faire comprendre deux choses.
Ah bah oui.
Jean-Pierre Petit et Jean-Paul Lyon, un auditeur lambda sur le chatroom de ici-et-maintenant.com, nous fait remarquer que la vitesse plus la centrifugeuse, est-ce que ça ne transforme pas les passagers en papier peint?
Mais non, mais attention, au contraire, la centrifugation, c'est la coque, les passagers ne tournent pas.
Oui, dans la présentation de Jean-Pierre,
pour la vitesse,
c'est tout à fait ça. Non, mais ce qui tourne, la vitesse de rotation?
Non, les deux phénomènes.
Non, mais la vitesse, quand la nef est en rotation, est en déplacement rapide dans l'univers jumeau, il n'y a pas d'accélération. C'est ça qui est difficile à comprendre.
Oui.
La nef apparaît à cette vitesse-là. Elle ne peut pas aller moins vite. Il n'y a pas d'accélération. Le concept même d'accélération tombe. Il y a quand même une chose qui, d'une part, est dans les textes limites, d'autre part, est dans les observations. C'est les histoires de virages à angle droit. Il y a des gens qui disent, moi j'ai vu passer un ovni, il allait à une vitesse folle, de pof, il a pris un virage. Même il est carrément revenu sur lui-même. Hein, vous vous rappelez Bon. Et ça, il y a une lettre en mythe qui dit, ça peut pas rentrer dans le cadre de notre physique, parce que un machin qui prendrait un virage angle droit à une vitesse pareille fondrait. L'énergie cinétique serait telle que l'engin serait complètement pulvérisé. Donc forcément, ça marche différemment.
Tout à fait. Ouais,
effectivement, dans ce genre de truc, il y a passage dans un autre univers, et à ce moment-là, il y a une manipulation qui fait que, par exemple, l'appareil réapparaît avec son vecteur vitesse orientée différemment.
Ouais.
Et à ce moment-là, si M est la masse de l'engin et V c'est vitesse, ben j'aurais tendance à penser qu'il conserve le module de son impulsion MV, et pas la direction.
Oui, c'est, bah oui, c'est-à-dire qu'il repiloterait, enfin bon, c'est, oui, dans
si, votre théorie. Si il va, mettons, à 2000 km heure vers le nord, tout d'un coup, il va vers l'est, mais il va toujours à 2000 km.
Oui, oui, oui. Hein? Sauf autre pilotage, quoi. Oui. Parce qu'il faut quand même bien qu'ils aient les moyens de piloter entre un démarrage foudroyant à vue, c'est-à-dire sans changer d'univers, et du surplace. Enfin, il y a des
Il y a une chose, moi, qui me plaît beaucoup, que j'avais trouvé, je sais pas, il y a 15 ans, ou c'est comme ça, c'est, les gens parlent d'antigravitation, de fait que les objets lévitent. Et ça, j'en ai parlé dans le bouquin, je crois, Le mystère des humides.
Ah.
Ça, c'est pour évoquer un petit peu l'observation de la marante, où un type voit un objet qui est devant lui et qui lévite. Bah, dans la mesure où, dans l'univers gemellaire, les masses s'inversent, et rappelez-vous une chose, il y a un document où les humides sont dans leur nef, et ils sont tout d'un coup confrontés à une nef étrangère. Vous rappelez? Et à ce moment-là, cette nef étrangère les scanne avec un pinceau d'onde gravitationnelle extrêmement puissant.
Ouais.
Et à ce moment-là, ils disent qu'ils ont eu la trouille, et ils disent que nous nous échappâmes en inversant la masse. Vous rappelez la phrase?
Oui.
C'est pas tombé de l'oreille, bien sûr.
En changeant d'univers, oui.
Et mais en inversant la masse!
Ouais.
Ah non, pas en changeant d'univers.
Bon.
Alors, ça veut dire que lorsqu'on change d'univers dans ce cas-là, on inverse la masse.
Ouais.
Et moi, c'est tout à fait comme ça que je construis le jumeau. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans l'univers jumeau, si on tombait sur une masse, en fait, dans le jumeau, on est, comment dirait-on, dans un univers très raréfié.
Ouais.
Et lorsqu'on on passe dans le jumeau, les masses du jumeau sont répulsives. Donc, autrement dit, la nef, quand elle est dans l'environnement terrestre, si elle passe dans l'univers jumeau, elle perçoit la masse de la Terre comme une masse négative.
Oui, bien sûr.
Donc, autrement dit, ce que je vois, moi, lorsqu'une nef de 50 tonnes est au-dessus du sol et ne bouge pas, eh bien, c'est parce qu'elle alterne sa présence dans notre univers, dans le jumeau. Alors, on pourrait dire que si c'était assez lent, elle tomberait de 2 cm dans notre univers, elle remonterait de 2 cm dans le jumeau.
Ah.
Et comme c'est extrêmement rapide, ça bouge pratiquement pas.
Ouais, il y aurait un calcul de fréquence à faire. Là.
Oui, et alors, peut-être que, justement, lorsqu'une nef est en train de léviter, elle agit sur la surface de contrôle qui se trouve à proximité, et il ne faut pas aller mettre la main dessus.
Ça, de toute façon.
De toute façon, nous déconseillons à nos auditeurs de toucher à son contrôle.
Et même de s'approcher, a priori.
Parce que ça peut émettre des rayonnements qui sont quand même assez dommageables. Mais mettre la main dessus, je m'y reprendrai deux fois.
Ouais. Enfin, quand même, cette histoire d'antigravitation, là, la langue nous apporte quand même une chose, hein, c'est que le mot qui sert à dénommer le système propulsif exprime clairement un contrôle local d'une autre forme de dépendance mutuelle. La dépendance mutuelle ou permanente, c'est l'attraction de la gravitation générale, enfin universelle.
Et donc ça cadre pas trop mal avec ce que je raconte.
Parce que, en fait, oui, c'est-à-dire que c'est un contrôle local, une variation localisée ou confinée d'une autre manifestation de gravitation.
Alors, ça colle avec ce que je raconte.
Hein, voilà comment s'appelle le moteur. Il n'y a que deux fois qu'il est cité, enfin, une fois sous le nom du système de propulsion, une autre fois sous le nom du moteur. Mais enfin, bon, ça ne nous apporte rien de plus sur sa constitution exacte.
Bah, disons que, dans ce sujet OVNI, il y a deux choses. Il y a les domaines qui ne correspondent d'ailleurs pas forcément à la réalité, comme les MHD, qui sont devenus opérationnels. Et c'est ce que je vais révéler dans mon livre, c'est qu'il y a des machines qui utilisent énormément la MHD et qui se baladent au-dessus de nos têtes à 10 000 km/h. Et ça existe, ça vole depuis 1990.
Oui, mais là, c'est terrestre.
C'est complètement extraordinaire.
Oui, mais terrestre.
Oui, mais c'est terrestre, mais c'est le point de contact qui lie notre technologie avec la technologie ovnisque. Alors après, bon, les voyages interstellaires, il faut quand même avouer modestement qu'on en reste à la spéculation, quoi.
Jean-Pierre Petit et Jean-Paul, est-ce qu'on pourrait, bon, s'approcher d'une conclusion, est-ce qu'on pourrait envisager que, à la manière d'un véhicule amphibie terrestre, les engins disposent de plusieurs moyens de transport, par exemple la MHD en approche, mais pas forcément exclusivement la MHD non plus.
Oui,
et un autre mode pour le déplacement intersidéraux.
Personnellement, je pense que c'est le même système qui sert à tout. Et il y a un système certainement proche, enfin, de la manipulation ou du contrôle du type MHD dans les environnements gazeux pour les gestions de couches limites ou de couches de choc, c'est-à-dire les questions d'ondes de choc dans le déplacement en atmosphère, enfin, dans tout environnement fluide. Mais autrement, je pense que c'est le même système. Pour l'instant, au moins d'après les documents UMO, on ne voit pas de différenciation de système suivant que c'est en atmosphère ou en interstellaire.
Il n'est pas évoqué de système mixte.
Non, non.
Je vais faire une réponse plus nuancée. C'est le même système, mais utilisé autrement. Parce que les systèmes pariétaux peuvent aussi bien concentrer de l'énergie sur une couche gazeuse et provoquer un changement dimensionnel, ou alors ioniser. Mais c'est pratiquement le même système. Ok ?
Enfin, c'est quand même un même système qui concourt à plusieurs choses différentes.
Oui, oui, mais hein? Il y a plusieurs fonctions.
J'entends bien, mais ça veut bien dire que c'est quand même le même...
Oui, mais...
Enfin, oui, bon...
C'est très économique.
Oui, oui, on peut le détailler comme ça, parce que c'est vrai que les conditions n'ont rien de commun, mais bon, il n'y a quand même pas un petit moteur électrique et puis un gros moteur à vapeur, quoi.
Non. Ah,
c'est grossier, hein, comme image, mais l'idée, c'est quand même...
Alors, il y a quand même une chose, c'est que dans ces textes que j'avais reçus, donc, dans les années 90, j'ai trouvé la mention de l'émission d'une bouffée gazeuse dans laquelle se trouvaient des atomes dont les noyaux avaient des états métastables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un état métastable? C'est un état d'excitation moléculaire, atomique, tout ce qu'on veut, qui a une durée de vie supérieure à la durée classique. Prenez par exemple un atome d'argon ou une molécule quelconque, vous l'excitez avec un rayonnement, elle se désexcite en un 100 000 000ème de seconde. Maintenant, un état métastable aura une durée de vie d'un millième de seconde, ce qui est 100 000 fois plus long. Donc, c'est ça qu'on utilise pour faire marcher des lasers, on utilise ce qu'on appelle le pompage optique, et on injecte de l'énergie dans des atomes ou dans des molécules qui ne sont pas capables de s'en débarrasser. Parce que justement, le niveau métastable fait que ça s'entasse. Donc là, la nef émet une couche gazeuse d'un certain atome dont les noyaux possèdent un état métastable, et à ce moment-là, on excite ces noyaux avec des rayons gamma. Et ces noyaux ne peuvent pas évacuer l'énergie et ils atteignent la criticité au sens géométrique du terme. Et ça, j'ai trouvé ça foutument astucieux. Ça n'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai trouvé dans les textes publics. Hein? Et justement, bon, j'ai donné des images après dans, je crois que j'ai déjà raconté dans les bouquins, c'est que finalement, il y a cette espèce de couche gazeuse qui entoure l'engin. On charge cette couche gazeuse d'énergie et l'espace-temps se déchire à cet endroit-là. Un peu comme dans les pointillés des papiers chiottes. Hein, on crée des pointillés dans le papier WC parce que ça casse à cet endroit-là. Et là, on transforme l'espace en un papier WC à trois dimensions. Et il va se déchirer sur une surface, qui est la surface de contrôle. Et ça, ça constitue... le textubit en tant que machine à penser, c'est une belle idée. Hein.
Ah ben ça, tous les textes du mythe en tant que machine à faire penser, il y a de quoi. Hein.
C'est joli, hein.
Ah oui, il y a de quoi, il y a de quoi.
Il y a de quoi.
Il y a encore du boulot pour plusieurs générations. Ça c'est sûr.
À ce propos, Jean-Pierre Petit, une avant-première serait bienvenue sur les textes du mythe non publiés encore et qu'on devrait attendre sinon le 2 janvier pour pouvoir lire.
Il y a aussi une lettre que... je n'avais pas osé publier en 91 quand j'ai sorti le bouquin Enquête sur les extraterrestres qui sont déjà parmi nous, qui est simplement évoqué dans le livre, mais qui là sera reproduite in extenso, qui est la lettre qui a été reçue, je crois, 3 ou 4 jours avant le déclenchement de la guerre du Golfe, lettre qui décrivait très bien les cibles que les Américains se proposaient d'attaquer par missiles de croisière, qui expliquait que l'énorme avantage américain serait à l'époque ce qu'on appelait pas encore le GPS, mais c'était ça. Quand les Irakiens disaient les Américains vont se perdre dans le désert, les Humides disaient ils ne se perdront pas parce qu'ils sauront exactement où ils sont à 10 mètres près. Ça c'est aussi précisé. Et puis il y avait aussi une chose qui fait que j'ai pas osé publier la lettre, qui celle-ci disait que les Irakiens avaient dispersé placés dans les pays occidentaux une soixantaine de commandos qui étaient équipés d'armes bactériologiques qui leur permettraient éventuellement d'empoisonner les autres consommations domestiques. J'ai trouvé ça tellement énorme à l'époque que j'ai pas osé le publier. Et vous voyez que 10 ans plus tard, c'est devenu dramatiquement d'actualité.
Bien, donc ça, c'est l'esprit, disons, de ces lettres qui seront publiées donc le 2 janvier.
Ouais.
Jean-Paul Lyon et Jean-Pierre Petit, on considère qu'on a fait le point sur la propulsion.
Oh oui, je pense qu'on a parlé...
On a fait ce qu'on a pu, hein.
Oui, ce qu'on a pu.
Alors, on va rappeler vos sites internet respectifs. Du moins, humo.free.fr comme un point de départ pour Jean-Paul Lyon.
Oui.
Humo.free, alors humo.free.fr.
Oui.
Comme point de départ. Là, on peut trouver aussi les références de wordonline.ch, l'éditeur édition Aldan.
Oui, la référence d'Aldan, oui.
Édition Aldan, en un seul mot, oui. At wordonline.
C'est édition, au pluriel, édition Aldan, at wordonline.ch.
Oui, mais ça, c'est le email, l'adresse email des éditions.
Oui, mais ça fait rien, comme c'est l'adresse email pour commander le livre.
Très bien. Et Jean-Pierre Petit, c'est jp-petit.com. Et là, ça prend la forme d'un appel à pétition, Jean-Pierre.
Ah oui. Ça, on va voir ça le 3. Mais disons que tout d'un coup, c'est vrai, c'est ce que tu m'as dit, Didier. Tu m'as dit que j'avais pas mal ménagé les institutions. Et c'est vrai que tout d'un coup, on se dit, mais ça fait 25 ans qu'on nous prend pour des imbéciles. Et j'ai donc envoyé des courriers au président de la République, à l'Institut des études de la Défense nationale, à Jean-Jacques Velasco, au général Letty, à l'Institut Cometa, aux grandes écoles, enfin, des tas d'endroits comme ça. Et c'est vrai qu'on se dit, j'envoie une lettre comme ça, ça ne sert à rien. Mais maintenant qu'il y a Internet, ces lettres deviennent des lettres ouvertes. Les gens peuvent à ce moment-là, électroniquement les co-signer, c'est-à-dire envoyer un mail en disant je suis d'accord avec ce que vous mettez.
Mais alors, ce qui est amusant, c'est qu'on peut signer certaines lettres et pas d'autres. On peut cautionner celles.
C'est un peu compliqué de faire une signature par lettre, parce que là je m'en sors plus. Je suis quand même tout seul pour gérer ce truc-là. Hein. Donc là, il y a une démarche qui est faite et tous les jours, je reçois un certain nombre de messages me disant je vous approuve et je souhaite que mon nom, profession et ville soit ajouter. Tous les jours, j'ajoute un certain nombre de noms, de villes, etc. Et si les gens, non seulement se signalent, mais constituent une feuille de papier sur leur lieu de travail ou n'importe où pour faire consigner des gens, ce qui compte, c'est le nombre. Hein. Et il y avait une personne qui me disait, en faisant ça, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes un peu comme Don Quichotte? Et c'est vrai que si je suis tout seul, je suis Don Quichotte. Mais 5000 Don Quichotte ensemble, ça fera peut-être quelque chose. Donc, soyons nombreux et voyons ce que ça donne. En tout cas, il y a une chose, c'est que des gens qui nous ont un peu pris pour des imbéciles pendant longtemps, je pense, quand même, vont se trouver un peu en difficulté. Ça dépendra des médias. Il faut encore que les journalistes fassent leur métier. Mais d'ici janvier, il va s'écouler presque 2 mois. Quand mon livre sortira, si par hasard je passe dans un média quelconque, et si ces lettres ont trouvé 1000 ou 2000 co-signataires, ça ne pourra pas passer inaperçu. Parce que les gens protestent en disant « Vous avez raison de demander des choses de genre. » Dans la lettre du président de la République, j'explique que depuis 25 ans, le sujet OVNI a été traité en dépit du bon sens, qu'on n'a rien fait, qu'on s'est obsédé sur le secret, et qu'en plus, les travaux qui ont été faits par l'établissement technique central en moment sont gardés secrets, et que ce secret ne sert à rien, puisque on a fait en France que de garder le secret, alors que les Américains ont travaillé. Donc on aurait mieux fait carrément de mettre ce sujet dans le domaine civil, les choses auraient avancé. Je vais donner un exemple précis que j'ai éclairci ces jours derniers. Les auditeurs ne le savent peut-être pas, le GEPAN a été créé en 1977. Très vite, Claude Poher, qui était le chef de cet organisme, quand il a été créé, a eu une idée tout à fait excellente, qui consistait à faire étudier par une société qui s'appelle Jobin et Yvon, ce qu'on appelle des spectres interférentiels, c'est-à-dire des petites bonnettes qu'on met devant un appareil photo, et quand on prend une photo d'une source lumineuse, au lieu d'avoir une tache, eh bien on a un spectre. Ça marche comme un spectroscope. Hein. Donc l'idée c'était d'équiper les appareils photographiques avec ça. Alors, la société Jobin-Yvon n'a pas eu de difficulté à fabriquer ces petits spectres, et on a équipé, tenez-vous bien, tous les gendarmes de France et de Navarre avec ce type de spectre. Ça fait 19 ans qu'ils ont ce cet appareil dans leur dotation. Mais les gendarmes sont des militaires. Ils ne vous le diront pas. Si vous prenez un gendarme à un carrefour et qu'il vous dirait « Est-ce que vous avez votre appareil photographique ?» et « Est-ce que vous avez votre petite bonnette à OVNI ?» il vous répondra « Secret défense, je n'ai pas le droit de vous dire « Je suis militaire. » Alors là où le détail est encore plus succulent, c'est que la société Jebet, ils vont, et ça c'est dans une note technique GEPAN de 1983, qui date donc de 19 ans, et c'est la dernière note qui a été publiée, qui a été signée par Louange, qui était directeur de la société Fleximage, qui avait donc travaillé sur la mise au point de ces bonnettes. La société Jebet, ils vont, dit que seuls les gendarmes seront équipés de ces bonnettes, parce que ce serait trop compliqué de faire des modèles pour les différents types d'appareils, parce qu'il faudrait au moins une commande de 500 pièces. Or, si on avait été logique, on se serait dit, plus il y aura de gens qui auront ces bonnettes, plus on aura de chance d'avoir un spectre. Parce que les ovnis n'apparaissent pas automatiquement devant les gendarmes. Or, seuls les gendarmes en sont équipés. Alors, un, c'est une erreur de faire que seulement les gendarmes en sont équipés. Deux, est-ce qu'il n'y a aucun gendarme en 19 ans qui a jamais pris un spectre? C'est la question qu'il faut poser au CEPRA, c'est la question qu'il faut poser au CNES, c'est la question qu'il faut poser au gouvernement.
Alors, les lettres de Jean-Pierre Petit sur jeanpierre-petit.com et les lettres des humites, c'est sur humo.free.fr et le moyen aussi de s'abonner à, comment appelle-t-on ça, la mail list?
Oui, à la liste de discussion humo.science.
Voilà. Jean, c'est la liste de discussion, mais moi, je prêche pour ma chapelle en disant, aidez-moi. Oui. Co-signer, essayons de faire quelque chose, groupons-nous, essayons d'être nombreux, parce que autrement ça ne sert à rien.
Absolument.
Vous vous rendez compte que depuis 25 ans, Vox clamate le désert tout, nous parlons dans le désert.
Ah. Il faut aider Jean-Paul Lyon aussi sur cette liste de discussions, parce qu'il y a beaucoup de travail à éplucher, et par catégorie, par genre, par matière, par sujet. Voilà, c'est
voilà.
Le mythe. Ben, je vous remercie tous les deux, et puis je donne rendez-vous à Jean-Pierre Petit le 3 décembre, à la même heure.
Aïe, aïe.
Ok.
À bientôt tous deux.
Allez, bye.
Allez, merci. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Ici maintenant 95.2. Alors la propulsion des ovnis, un sujet clé, essentiel, parce que si on n'éclaire pas ça, tout le reste n'est que récit et conte et légende. Nous avons évoqué cette question avec Jean-Paul Lyon et Jean-Pierre Petit. Vous avez fait connaissance il y a quelques jours de cela d'un autre intervenant, en la personne de Éric Julien, qui lui aussi a des choses importantes à nous dire. Et Éric Julien, bonsoir. Éric Julien,
bonsoir Didier.
Vous avez structuré une intervention en plusieurs chapitres, sous-chapitres, etc. C'est un travail extrêmement bien fait, déjà presque digne de publication, comme le sommaire d'une encyclopédie. Et vous allez nous détailler tout cela étape par étape, en facilitant la compréhension. Mais avant tout, on peut naviguer sur Internet en vous écoutant, sur... l'un des deux sites, je crois, où se trouve publié une partie de ce que vous exposez.
Oui, tout à fait. Alors, bonsoir Didier, bonsoir à tous les auditeurs, et bien sûr, bonsoir Alexandre à la technique. Merci de m'avoir invité, parce que c'est un exercice auquel je ne suis pas habitué. Et il est vrai aussi qu'un nombre relativement important de personnes ont déjà lu un article que j'ai commis ces derniers jours sur quelques sites internet. Alors, il y a le site Marcogi, marcogi.free.fr, le site On nous cache tout, onnouscachetout.com, en un seul mot, et quelques autres sites. Je ne veux bien entendu oublier personne, mais comme il commence à devenir de plus en plus important, de plus en plus diffusé, pardon, sur le net, il y en a à peu près entre 10 et 15 aujourd'hui, ne serait-ce qu'en France et à l'étranger, puisqu'il a été traduit en anglais. À l'étranger, il y a effectivement une bonne quinzaine de sites de langue anglaise qui également diffusent cet article. Alors, effectivement, l'article en question a été précédé d'un autre sur le magazine Top Secret en septembre dernier. Mais il faut savoir que le premier article en question a été en réalité rédigé en mars 2002, à la suite d'une expérience extraordinaire pour, je dirais, un être humain. Mais avant de venir à cette expérience particulière que les spécialistes peuvent désigner par rencontre du cinquième type, eh bien, je voudrais un petit peu d'abord me présenter, parce que pour beaucoup, je suis un inconnu, bien entendu, et ensuite parler des expériences elles-mêmes. Alors, je vous propose ensuite de faire un voyage hors de la matrice, en écoutant les explications qui me sont, parvenues dans cette rencontre du cinquième type, et essayer de comprendre un petit peu de quoi est fait notre univers, tel que je l'ai perçu, en tout cas à travers ces expériences, parce que il est vrai que nous sommes tellement attachés à un certain nombre de dogmes scientifiques, tellement attachés à nos perceptions communes, qu'il nous est difficile finalement de comprendre comment pourraient fonctionner des ovnis qui nous paraissent être des miracles technologiques, tout comme le sont d'ailleurs les phénomènes paranormaux que j'attache également à aux mêmes principes qui gouvernent la propulsion des ovnis. Alors, tout d'abord, mon expérience professionnelle, je suis avant tout un technicien, en tout cas je me définis comme tel, un technicien du transport aérien, puisque j'ai 20 ans d'expérience dans 4 métiers différents. Tout d'abord, entre 80 et 85, j'ai été contrôleur aérien sur la base aérienne de Reims, la base aérienne 112. Ensuite, de 85 à 88, j'ai été cadre dans le secteur des médias, et plus particulièrement dans celui de l'économie et de la bourse. En 89, puisque j'avais envisagé de le faire et les 3 années précédentes avaient permis de rassembler quelques sous pour pouvoir le faire, donc j'ai fait une formation de pilote professionnel vol aux instruments. Et en 89, de 89 à 92, j'ai été donc pilote d'aviation d'affaires. Alors le pilote d'aviation d'affaires, c'est celui qui pilote les petits avions, mais qui en général transporte les patrons de ceux qui sont dans les gros. En tout cas, c'est comme ça qu'on arrivait à se définir. J'étais donc à Nice, Cannes et au Bourget, donc près de Paris. Donc 3 ans de pilote d'aviation d'affaires sur biturbopropulseur et biréacteur. En 93, après que la guerre du Golfe ait décimé un nombre important de compagnies aériennes, et en particulier dans le secteur de l'aviation d'affaires, eh bien en 89, j'entre à l'université, je fais un peu l'inverse de ce que font habituellement les gens, et je passe un DESS d'économie à l'université Aix-Marseille 2, un DESS spécialisé notamment dans les nouvelles technologies et dans la gestion de ces nouvelles technologies. Et dès 94, donc à l'issue de ce DESS, j'envoie un seul CV et la chance est avec moi, puisqu'une compagnie aérienne française m'engage en tant que chef d'escale de permanence. Je reste un peu plus de 4 ans dans cette compagnie et je suis ensuite coopté par l'aéroport dans lequel je travaillais, un grand aéroport parisien, et j'y suis depuis donc 98. Alors, je dois dire que j'ai fait un break de 2 ans sur l'île de la Réunion. Je voulais m'occuper un peu plus de mes enfants, puisque j'en ai 6. Et l'île de la Réunion est une île absolument enchanteresse. Vous connaissez certainement sa situation géographique. C'est à l'est de Madagascar, donc dans l'océan Indien. C'est une perle de verdure sur une table d'un océan parfaitement bleu. Et je dois dire que j'ai passé 2 ans absolument extraordinaires, parce que cela m'a permis non seulement de m'occuper de mes enfants, mais également d'écrire un livre qui est disponible gratuitement sur onnouscachetout.com et qui a pour titre Le Jugement Dernier. Alors juste quelques mots sur ce livre qui est un roman, tout à fait imaginaire. C'est finalement, Le Jugement Dernier est un jeu vidéo très futuriste, dans lequel le personnage principal va se retrouver face à lui-même dans une autre dimension, et c'est toute cette perspective de l'identité et de l'identification à autre chose que soi qui est le thème fondateur et principal de ce livre, et donc je vous engage vraiment à le lire. Déjà il est gratuit, donc c'est déjà pas mal comme critère de choix. Et puis en plus, c'est un livre qui permet de concevoir peut-être la vie qui nous entoure et l'univers de façon un peu différente. Et c'est surtout un appel à l'espoir, hein, puisque le jugement dernier, tout le monde affuble une valeur négative. Alors que là, au contraire, c'est extrêmement positif, en tout cas, si on le comprend de la bonne manière. Donc voilà pour ce livre, mais le plus important, c'est bien entendu le sujet de ce soir, la propulsion des ovnis. Alors je ne suis ni un ufologue, ni un scientifique, mais juste un expérimentateur. Je tiens à le dire parce que il est clair que nos deux amis qui m'ont précédé, Jean-Paul Lyon et Jean-Pierre Petit, sont des spécialistes dans leur domaine et qu'il n'est pas du tout question pour moi de vouloir apporter quelques éléments qui puissent venir en concurrence, si je puis dire, parce qu'ils ont parfaitement dominé leur sujet. En revanche, en tant que témoin, j'ai certainement des choses qui peuvent apporter un autre regard, un autre éclairage sur le phénomène OVNI pour nos auditeurs de ce soir. Alors, les expériences OVNI, je suis comme tout le monde, bien entendu. Au début, on a une profonde indifférence devant des phénomènes, notamment lumineux. La première expérience fut en 1977, où, lorsque j'étais à Toulon, il était 22h à peu près, je sortais le chien. Il y avait au bas d'une colline une boule extrêmement grande, de la taille d'une orange à bout de bras, de couleur orange, qui donc a décollé avec un azimut de 60 degrés dans le ciel très très vite et tout en accélérant a diminué de taille et en pleine accélération il y a eu un virage effectué à 90 degrés par cette boule lumineuse. Alors comme beaucoup de témoins d'OVNI, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention si ce n'est que une mémorisation simple hein, qui vient comme beaucoup d'événements dans notre vie, une mémorisation à laquelle on n'accorde pas beaucoup d'importance. En revanche, aujourd'hui, j'y accorde une importance parce que vous allez voir que la série est relativement longue. En 1983, j'étais donc contrôleur aérien sur la base aérienne de Reims. J'ai fait ce témoignage d'ailleurs la semaine dernière, en tant que contrôleur aérien seulement. J'étais donc devant mon scope radar. Vous savez que les tours de contrôle locales, puisqu'il s'agissait là en l'occurrence d'une tour à Reims, eh bien, sont équipées de deux grands secteurs d'activité. La tour elle-même qui est perchée tout là-haut, et puis donc qui permet effectivement d'avoir un visuel sur les appareils qui se présentent ou qui vont décoller. Et la salle d'approche, que tout le monde peut imaginer facilement, puisque les films de fiction les présentent très souvent, une salle sombre avec des écrans ronds pour certains, carrés pour d'autres, orangés, avec quelques lumières autour des écrans. Donc j'étais en poste de percée et j'attendais une patrouille de chasseurs lorsque j'ai aperçu un écho radar. J'ai cru tout d'abord que c'était un écho qui ne m'était pas destiné et qui en plus pouvait être un problème dans le module de détection. Il avait donc une vitesse stable et qui allait d'est en ouest, mais qui dès le deuxième puis le troisième passage de l'antenne radar, eh bien s'est avéré être hyper véloce. Et j'ai fait donc un calcul en faisant une simple règle de 3, sachant que l'antenne tourne en 7 secondes et demie par tour. Donc, l'écho radar, qui était large et brillant, allait à 28 000 km/h. C'est une vitesse absolument fabuleuse, même pour l'époque. Hein, nous sommes en 1983. Et même à cette époque, donc les missiles les plus rapides dépassaient à peine Mach 3. Or là, il s'agit d'un ordre de grandeur du triple au moins. Et donc, je ne pouvais guère m'expliquer la situation. D'autant que j'avais débranché le radar secondaire qui, vous savez, permet d'identifier les appareils. Et je n'avais donc plus que le radar primaire qui est, lui, l'effet Doppler qui est représenté sur l'écran radar. Alors, s'assurer qu'il s'agissait bien d'un objet, oui, puisqu'il y avait une rémanence, oui, parce qu'il n'y avait pas de problème de détection, enfin, dans le module de détection, puisque j'avais demandé ça au radariste, hein, au technicien. Se demander s'il y avait un satellite qui avait exactement la même trajectoire serait méconnaître la tranche d'atmosphère pardon, que le lobe de détection permet pour un radar de contrôle local, sachant que les satellites en question sont 10 fois plus hauts que la limite haute de ce lobe de détection. Donc voilà, hein, une simple observation radar, sans pour autant comment dire, avoir de certitude quant à la nature de l'objet. En 1984, par contre, j'étais pas directement témoin, mais cela a été rapporté par un de mes collègues, contrôleur aérien toujours à Reims. En 1984, mon collègue, qui a 20 ans d'expérience, il est à la vigie, donc tout en haut, il est 22h, il attend les derniers avions pour le retour sur la base, et là il voit une soucoupe, hein, puisqu'il faut nommer les choses par leur nom, une soucoupe qui est en vol stationnaire, si je puis dire, au-dessus du centre de commandement de la base, ou en tout cas, c'est la perspective qu'il a depuis la tour, pardon, et qui a donc des lumières vertes et rouges qui tournoient autour de l'engin, donc à la périphérie, et qui est resté une dizaine de minutes. Alors, pour un contrôleur aérien, c'est assez curieux, mais il a demandé à la salle d'approche, il n'y avait pas un écho qui pouvait être effectivement une seconde observation, une confirmation de son observation visuelle. Mais ce réflexe est assez curieux puisqu'il devait savoir en tant que professionnel que l'écho était nécessairement dans les échos fixes. Vous savez que les échos fixes, ce sont les échos qui représentent les obstacles naturels ou artificiels à proximité de l'antenne radar. Et que la salle d'approche donc ne pouvait pas distinguer l'engin des échos fixes. Toujours est-il que il a hésité, puisque c'est un personnage très rationaliste, même à l'extrême, et qu'il a quand même hésité longtemps avant d'en parler. L'objet a décollé au bout de 10 minutes, avec une accélération foudroyante, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, suite à cette observation par ce contrôleur, il y a eu une enquête, hein, un peu plus tard, par, à l'époque c'était le GEPAN, aujourd'hui c'est le CEPRA, donc le service d'études des phénomènes rares, hein, puisqu'il a changé de nom. Donc ce GEPAN est venu sur la base, a interrogé tous les contrôleurs qui étaient présents à la fois à la salle d'approche et donc mon collègue témoin. Et par contre, aucune trace d'aucune sorte dans le moindre rapport officiel, puisqu'on peut imaginer effectivement légitimement que les autorités militaires n'aient pas envie d'indiquer qu'un OVNI puisse pénétrer sur une base aérienne. En 84, donc l'observation de la soucoupe sur la base de Reims par mon collègue, non, il s'avère que en 84, j'habitais sur la base aérienne elle-même, et qu'il se pouvait que cet objet eût été à proximité de l'endroit où je résidais sur la base, puisque c'est exactement dans le prolongement de l'axe de vision de mon collègue. En 1990, en revanche, là c'est une expérience vraiment très différente, puisque j'étais à l'époque pilote d'aviation d'affaires, et je revenais d'une mission dont je ne me souviens plus de la destination, mais toujours est-il que j'étais à Sophia Antipolis, entre Cannes et Nice, un peu en arrière-pays, un pays d'ailleurs extrêmement extrêmement beau et agréable à vivre. Et en 1990, dans cette sieste, je fais un rêve éveillé, extrêmement surprenant, et auquel, bien entendu, je ne m'attendais pas. Je me retrouve dans une atmosphère très étrange, dans laquelle je vois un vaisseau, ou plutôt le plan d'un vaisseau, un plan qui est extrêmement vivant puisque ça ressemble à un hologramme, où j'aperçois 4 corps de technologie, je vais revenir dans un instant, mais surtout la présence de 3 entités non humaines. Et là on en a une certitude extrêmement forte, hein, quand ce genre de choses arrive, mais curieusement je n'ai eu aucun sentiment ni de peur ni d'excitation ni de quoi que ce soit. Toujours est-il que ces êtres en question avaient l'intention de me montrer à la fois le fonctionnement et la technologie qui était utilisée. Alors les quatre corps de technologie sont finalement relativement simples à comprendre. C'est d'abord un rotor qui est extrêmement rapide, qui était proche de la vitesse de la lumière, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, et qui était logé dans une chambre à vide, parfaitement vide, qui était en liaison avec le reste de l'appareil par un réseau supraconducteur extrêmement compliqué. À la périphérie de ce vaisseau qui ressemblait à s'y méprendre à une soucoupe, il y avait un tor dans lequel une forme de plasma, ou en tout cas une matière tournée à très très grande vitesse là également. Et au milieu de ce vaisseau, il y avait un cristal au-dessus du tor qui lui était concentrique et donc parfaitement au centre. Il y avait donc un cristal qui émettait un rayonnement extrêmement puissant et lumineux, et qui était logé dans une sphère de protection. Alors, bien entendu, il est plus facile de décrire avec un schéma en face de soi, mais malheureusement, la radio ne le permet pas. Toutefois, ce que la radio permet, c'est de transcrire à la fois l'atmosphère et les sentiments, peut-être d'entrer dans cette intimité de l'expérience de façon plus proche. Alors, quand je suis sorti de cette expérience, après, bien entendu, j'ai été surpris, j'ai rapidement fait un dessin, et je l'ai gardé pour moi, parce que, bien entendu, il n'est pas question de transmettre ce genre d'expérience au premier venu. Mais j'ai été tellement marqué que quelques années plus tard, j'ai rencontré un physicien, spécialiste de la supraconductivité à Paris, et je lui ai montré le schéma en tentant le moins possible de me rendre ridicule. Je n'y suis pas parvenu parce qu'effectivement il est entré dans une colère sourde et il m'a indiqué que je lui faisais perdre son temps, ce que je comprenais tout à fait puisqu'il me disait que un rotor en rotation très rapide exploserait très rapidement puisque la force centrifuge ne permettrait pas de garder la cohésion atomique de ce rotor. Alors je ne me suis pas plus posé de questions que cela. J'ai rangé mon plan et je l'ai même jeté un peu plus tard, me disant que bon, c'est une expérience si étonnante et en même temps si hors norme que personne ne pouvait croire sa réalité. Alors un peu plus tard, là c'est 11 ans plus tard, en décembre 2001, nous sommes, donc ma famille et moi, sur l'île sœur de La Réunion, qui est l'île Maurice, qui est encore à l'est de l'île de La Réunion. Nous sommes en vacances, nous voulons passer quelques jours pour passer la Saint-Sylvestre à côté de chez nous. Et nous sommes dans une villa très agréable avec piscine et nos enfants, il est là aussi aux alentours de 22h-23h, nos enfants sont encore dans la piscine. Quelle chance, n'est-ce pas, à cette heure-ci. Et l'une de mes filles voit un ovni qui est entre la plage, qui se trouve à 300 mètres, et la maison en question. Les parents, donc, sommes devant la télé ou en train de lire un ouvrage. Et donc, nous ne sommes pas du tout témoins de cette observation. Toujours est-il que l'engin avait aussi une forme soucoupique et avait des lumières changeantes et tournoyantes en dessous donc de la soucoupe. L'observation a duré quelques secondes puisque l'engin allait relativement vite, mais toujours est-il que ma fille qui a une douzaine d'années a été absolument certaine de ce qu'elle a vu. D'ailleurs, elle a été étonnée que l'engin en question prenne une pente descendante comme si il allait atterrir un peu plus loin. Elle en a parlé assez curieusement que cet été, après que j'ai été donc témoin d'une expérience, plus que témoin d'ailleurs, presque acteur d'une expérience à laquelle je vais donc aboutir dans quelques instants. Donc je veux dire que j'ai rapporté cette information après le premier article que j'ai commis, parce que en réalité je n'avais pas du tout l'information et ce n'est que parce que je m'intéressais tout d'un coup aux ovnis que donc mes proches se sont ouverts à cette possibilité. Du reste, je l'ai indiqué nulle part, mais ma belle famille a été aussi témoin d'une apparition. Et alors c'est curieux parce que quand on parle d'ovnis, tout d'un coup on voit beaucoup de gens, beaucoup de témoins. Et c'est plus vrai ces dernières années que les années précédentes, beaucoup de témoins et finalement accepté de témoigner parce que c'est un sujet qui est de moins en moins tabou. Là, c'est vraiment clair, on a maintenant des milliers, voire des dizaines de milliers de témoignages sur la Terre. Et aujourd'hui, maintenant, les gens se souviennent, même s'ils n'ont plus finalement ou pas du tout de sentiments particuliers vis-à-vis de ce phénomène, toujours est-il que il y a comme un détachement par rapport à l'événement. Donc je parlais de décembre 2001, février 2002, une observation simple d'une lumière très rapide qui passe juste au-dessus de la maison, toujours à La Réunion. Et en mars 2002, c'est la deuxième expérience, je dirais, très particulière, qui est une seconde, de mon point de vue, une seconde expérience dite RR5, rencontre rapprochée du cinquième type. Et dans cette expérience, que je qualifie de transcendante, qui a été précédée d'ailleurs d'un bruit extrêmement grand, extrêmement fort, qui a été, dont ma femme a été témoin plutôt pendant que je dormais. Il était 23h, c'était le 7 mars 2002, 23h30, donc je dormais, ma femme était encore près de la terrasse, et elle entend un énorme bruit, comme un fil de fer qui tournoie, et un bruit très violent, saccadé, un peu comme si un 38 tonnes traversait la maison, mais de haut en bas. Elle se précipite devant la fenêtre et regarde si, d'abord, elle ne voit pas quelque chose, et puis si, par ailleurs, il y a manifestation des voisins qui sont relativement proches. Alors, seuls les chiens aboient, et personne ne sort et ne montre le bout de son nez. Alors, il semblerait que l'expérience ne concerne que quelques-uns, en tout cas, nous étions aux premières loges. Alors, elle me raconta cette observation, je dirais, ce bruit, très particulier et très violent, que le lendemain vers 11h du matin. Tandis que, pour ma part, je me levais vers 4h30 et j'écrivais pendant 3h. 3 heures pendant lesquelles je vais décrire ce que vous allez entendre ce soir. 3 heures pendant lesquelles je vais tenter de retranscrire plutôt, parce que l'événement que j'ai vécu, ou l'expérience plutôt que j'ai vécue, a une nature, je dirais, hors norme par rapport à nos expériences quotidiennes. C'est une expérience donc dans laquelle j'entre par la petite porte de l'univers pour voir de l'autre côté du miroir en quelque sorte, et c'est ce voyage hors de la matrice auquel je vous convie ce soir pour essayer de comprendre en quoi la propulsion des ovnis est un changement de paradigme total avec les connaissances scientifiques que nous avons aujourd'hui, ou tout au moins c'est un prolongement inévitable de nos connaissances scientifiques, et certainement auquel on ne s'attend pas. Donc ce prolongement, c'est pour l'essentiel lié à la nature du temps, que je considère aujourd'hui donc à l'aune de cette expérience comme étant tridimensionnelle. Et l'on va voir finalement que tout au long de la soirée, on va essayer d'égrener ce que la science nous permet ou d'affirmer ou de ressentir intuitivement. Mais en tout cas, suite à cette expérience que je vais vous raconter avec un peu plus de détails, je me suis documenté beaucoup, j'ai essayé de comprendre les différentes théories en lice, j'ai essayé de vivre de l'intérieur les mouvements de la science, comment les théories soit disparaissaient, soit émergeaient. et nous sommes véritablement à la veille d'une révolution scientifique sans précédent. Et Jean-Pierre Petit le disait tout à l'heure, et d'ailleurs je suis extrêmement heureux d'avoir entendu le dialogue entre Jean-Paul Lyon et Jean-Pierre Petit, parce que finalement il m'a servi sur un plateau tout ce que je vais vous raconter ce soir. Alors qu'est-ce que c'est que cette expérience? C'est pour l'essentiel une compréhension de la nature du temps. Dans ce temps que nous croyons être linéaire, que nous croyons n'avoir qu'une seule flèche qui va du passé au futur, eh bien c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que la première dimension est celle du sens, qui a en réalité deux flèches, une qui va effectivement du passé vers le futur, mais une autre qui va du futur vers le passé. La deuxième dimension du temps est le, comment dire, la densité du temps. Alors ça, c'est à mon sens la fondation de la prochaine révolution scientifique à venir, parce que dans cette densité du temps, on s'aperçoit que c'est la fluidité de l'écoulement du temps. Vous connaissez certainement les deux façons de percevoir le temps, qui est un, le temps mesurable, celui que l'on peut avoir grâce à sa montre, et le deuxième temps, c'est le temps psychologique, qui est notre perception intime de la durée des événements, ou de la durée des phénomènes que nous entrevoyons, ou que nous vivons, que nous sentons. Eh bien, cette densité du temps, c'est précisément une réalité de l'écoulement du temps. Et le temps, qu'il soit d'ailleurs la dimension du sens ou celui de la densité, est discret, c'est-à-dire qu'il est discontinu, il n'est pas linéaire, il fait des sauts. Je reviendrai avec la notion de quanta de temps. Et la troisième dimension du temps, qui est certainement la plus délicate à comprendre et à interpréter, c'est le présent. Alors, qu'est-ce que le présent? Alors, effectivement, nous sommes sur la bonne radio, ici et maintenant, pour tenter de comprendre ce qu'est le présent, puisque, habituellement, c'est ce qui n'est pas encore passé, enfin, ce qui est, oui, c'est en dehors du passé, en dehors du futur, et on se dit, bon, on vit l'instant présent, donc ici et maintenant. Or, le présent n'existe pas jusqu'à ce qu'on appelle le temps de Planck, qui est une valeur infinitésimale, pardon, du temps, qui est 10 puissance moins 43 secondes, qui est même pas perceptible par l'entendement. Donc ce présent, tel que nous le concevons, n'existe pas, et il nous faut donc faire un effort ce soir pour sortir de la matrice, pour comprendre que on est complètement enfermé, rifté à notre compréhension, à nos sens. Et si vous me permettez, on va faire peut-être une petite pause musicale pour essayer de rassembler ces trois informations que sont les trois dimensions du temps. Donc le sens du temps, la densité du temps et le présent. J'y reviens. À tout de suite.
prisoners of the ships.
Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2. Je vous rappelle qu'Éric Julien est notre invité ce soir, après l'intervention en début d'antenne donc de Monsieur Paulion et Monsieur Petit, qui étaient en liaison téléphonique avec nous. Éric Julien essaye d'expliquer, en tout cas prend son temps, et c'est normal, la propulsion des ovnis, mais en passant par l'historique, par ses expériences personnelles. Et si vous voulez en savoir plus, en écoutant évidemment la radio ou en allant sur internet, sur le chatroom d'ici et maintenant, sur ici-et-maintenant.com, rubrique chatroom et sur l'invité du jour. Vous pouvez aussi aller sur internet, et d'ailleurs Eric, c'est quoi le site internet pour avoir plus d'informations sur ce que tu nous dis?
Oui, et donc il est préférable d'avoir des schémas devant les yeux pour bien comprendre les principes qui sont évoqués. Il y a, je dirais, deux sites que j'ai en mémoire, c'est onnouscachetout.com, onnouscachetout c'est en un seul mot, et marcoj.free.fr, où vous avez également la version anglaise, si vous êtes anglophone, la version anglaise de cet article qui fait une vingtaine de pages. Mais il y a d'autres sites comme le journal de l'ufologie qui est bien connu sur le net. Il y a ufologique.fr et il y en a d'autres que je repréciserai au cours de la soirée parce que il ne faut, enfin, en tout cas, il faut tenter de n'oublier personne. Et je vous donc je vous donnerai pendant tous ces sites à mesure que nous progresserons dans l'évocation de la propulsion des ovnis. Alors je parlais tout à l'heure des trois dimensions du temps. Il faut bien comprendre que aujourd'hui, nous concevons notre univers comme ayant quatre dimensions, trois d'espace et une de temps, et la dimension du temps est celle finalement de la flèche du temps qui va du passé au futur. Or, dans l'expérience de mars 2002, que j'évoquerai également peut-être plus en détail, mesure que, et éventuellement avec les questions des auditeurs, Dans cette expérience, il y a ce que l'on appelle la transcendance. Alors, effectivement, ça n'a pas beaucoup de rapport avec la matérialité des ovnis, mais en tout cas, il y a un rapport avec la compréhension de ceux qui, comment dire, qui les pilotent. Parce que clairement, il faut le dire, j'ai maintenant une conviction intime qu'il s'agit de races non humaines, pardon, non humaines qui les pilotent. En tout cas, il y a différentes versions et nous pourrons les aborder dans quelques instants. Toujours est-il que le temps a trois dimensions et c'est une, et je l'ai découvert il y a quelques semaines, c'est une information, si je peux dire, c'est une théorie qui n'est pas nouvelle finalement. Plusieurs chercheurs ont tenté de comprendre la nature du temps et ont évoqué, par les mathématiques, le temps à trois dimensions en le définissant non plus comme étant scalaire, mais vectoriel. Alors, vectoriel, ça signifie plusieurs implications, dont l'une d'elles est que l'énergie dont tout le monde parle tant, dont, à laquelle tout le monde s'accroche, l'énergie n'est plus un vecteur dans ce cas, mais plutôt l'énergie devient un vecteur, mais n'est plus une quantité. Alors ça peut être effectivement une révolution scientifique, puisque tout le monde s'attarde sur la conservation de l'énergie, mais si cette énergie devient un vecteur, eh bien nous allons avoir là de nouvelles perspectives de recherche scientifique qu'il faudra bien mener de front avec nos connaissances actuelles. Alors je voudrais un peu m'apesantir sur la densité de temps, qui est peut-être la notion la plus délicate et en même temps la plus importante à comprendre ce soir. On pourrait dire qu'une densité supérieure à la convention seconde, puisque la seconde est une convention, c'est une invention humaine. Donc une densité supérieure à la convention seconde serait une fraction de celle-ci, pendant laquelle se produirait autant de choses. On peut faire un parallèle avec l'informatique, où l'on voit effectivement les progrès s'accomplir tous les deux ans par bonds successifs, et où les vitesses de traitement sont quasiment doublées tous les deux ans. Eh bien, l'informatique est le schéma et le modèle idéal pour décrire la densité du temps. Vous avez dans un temps toujours identique beaucoup plus d'informations. Vous avez accès aujourd'hui effectivement à Internet et je vous engage à poser vos questions et aussi à utiliser le téléphone dans quelques dizaines de minutes. Eh bien, la densité de temps, c'est une fluidité, c'est un écoulement, c'est une viscosité du temps, et que j'ai, quelques mois après l'expérience, décrit comme étant des quantas de temps qui seraient inférieurs au temps de Planck, pardon, qui est de 10 puissance moins 43 secondes. Donc, en première approximation, on pourrait dire que le grain de temps insécable serait inférieur à ce temps, et on peut l'estimer à 10 puissance moins 44 secondes, mais là, c'est pure spéculation, ça peut être juste en dessous ou juste au temps de Planck. Je dirais que c'est aux physiciens de le déterminer, pour autant que cette théorie soit vérifiée, car je veux insister ce soir pour dire que je ne fais que rapporter une expérience et non imposer une nouvelle vue, une nouvelle théorie. En tout cas, pour moi, c'est une expérience, et pour l'auditeur, ce sera une théorie. Toujours est-il que la densité de temps, c'est ce qui va nous permettre de comprendre comment pourrait fonctionner l'énergie libre, comment fonctionne la propulsion des ovnis, et surtout, quel lien on peut faire avec un certain nombre de phénomènes, y compris les phénomènes paranormaux. Et on peut comprendre d'ores et déjà que les règnes de la vie tels que nous les connaissons, à savoir le règne minéral, le règne végétal, minéral et humain, sont dans des densités de temps différentes. Pour bien le comprendre, il faut imaginer que chacun de ces règnes a sa propre seconde, a son propre écoulement de temps. Et la perception de ces règnes, pour une fleur par exemple, sera complètement différente. Si on voulait s'imprégner de ce que vit la fleur, il faut imaginer un film en accéléré plutôt de l'éclosion d'une fleur, et on comprendra un peu mieux ce que la fleur peut ressentir quant à son propre écoulement de temps. Alors, je dirais qu'il y a deux dilatations du temps. Il y a la dilatation absolue, qui est effectivement ce qui correspond à la sortie de la matrice, et qui est donc finalement la création de l'univers lui-même. Et il y a la dilatation relative, celle qui nous permet la perception du temps des autres règnes, qui est la créature elle-même qui perçoit la création. Alors, encore une fois, je vous engage, pour ceux qui sont équipés d'Internet, d'aller voir sur les sites que j'ai indiqués, parce que un croquis vaut mille mots, dit-on, et là c'est extrêmement vrai, puisque il est clair que percevoir ce qu'est le temps est extrêmement, si je puis dire, immatériel, tout comme d'ailleurs est immatériel le progrès technique. On parlait il y a un instant de l'informatique, nous allons de plus en plus vers l'immatérialité des progrès technologiques. Une des lois qui est ressortie de cette expérience, c'est que plus une créature a de degrés de liberté, et a fortiori celle du temps, moins elle est contrainte. Alors ça peut ressembler effectivement à une lapalissade, mais il est clair que le minéral va très peu bouger, le végétal un peu plus, et on va avoir, je dirais, beaucoup plus de difficultés à prévoir son évolution. L'animal a également des degrés de liberté supplémentaires. Il est capable de se mouvoir, de bouger, de changer même de région. Hein, les oiseaux migrent, vous le savez bien. Et l'humain va avoir un degré supplémentaire d'évolution, de liberté, si je puis dire. C'est le degré de la conscience. Alors, on peut imaginer d'ores et déjà qu'il existe des créatures qui ont des degrés supérieurs à l'humain et qui vivent dans des densités de temps qui vont nous paraître, pour nous, être comptées en nanosecondes ou en picosecondes. C'est extrêmement rapide. C'est comme s'ils nous voyaient au ralenti, alors même que nous utilisons nos voitures ou nos avions. Pour eux, tout est figé et ralenti. Et c'est vraiment un point important de la compréhension de la propulsion des ovnis, parce que, véritablement, nous sommes là dans un nouveau paradigme de l'espace-temps qui est de nature fractale, c'est-à-dire discrète. L'espace-temps va être découpé, plutôt l'univers va être découpé en tranches, comme un millefeuille, et à chacune de ces feuilles, il y aura un espace-temps qui sera donc attribué, si je puis dire, et chacun des règnes de la vie va vivre et évoluer dans la feuille du millefeuille en question. Et bien entendu, on peut imaginer que les créatures évoluent de feuille en feuille. Les scientifiques parlent de brain, hein, ou membrane. On peut tout à fait imaginer qu'il s'agit de la même chose. À ceci près qu'aujourd'hui, les brains en question n'ont pas du tout une vision, ou plutôt n'intègrent pas du tout le temps en trois dimensions. Alors, le problème de la science aujourd'hui, c'est le fait reproductible. Enfin, c'est un problème. C'est ce qui nous a fait avancer jusqu'alors. Depuis le siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, nous concevons le progrès scientifique sur des bases déductives, et nous avons quelques grands penseurs comme David Hume, qui est un philosophe écossais qui vécut au XVIIIe siècle, et qui nie toute fonction scientifique, même restreinte, à l'induction. C'est-à-dire que la recherche scientifique, pour lui, procède plus par essai-erreur, par conjecture et par réfutation que par induction. Alors, qu'est-ce que c'est que l'induction ? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la déduction ? Elle est liée à un code, à une formalisation, et il est impossible que toutes les assertions soient vraies et la conclusion soit fausse. C'est ce qui, modèle les mathématiques, dont on est sûr, dès lors que les axiomes sont acceptés par tous, dont on est sûr que la conclusion sera vraie, pour autant que les assertions d'origine, les prémices, comme on dit, soient vraies également. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inférence déductive. En revanche, l'inférence inductive veut qu'il n'y ait pas de codification, donc pas de formalisation, et que la conclusion va au-delà des faits observés, donc va au-delà des prémices. Et c'est pourtant, et en dépit de ce qu'a dit à la fois Hume et Karl Popper, c'est pourtant ce que la science fait aujourd'hui depuis des dizaines d'années, car nous atteignons une limite qui est précisément la limite que j'indiquais il y a quelques secondes, qui est la limite des degrés de liberté. Alors on oppose souvent les sciences dures aux sciences molles, les sciences dures étant les sciences exactes, celles que l'on peut mesurer, celles que l'on peut reproduire, celles que l'on peut mesurer avec une précision infaillible. Et en face de cela, nous avons des sciences molles dont beaucoup s'étonnent d'ailleurs qu'on y trouve la biologie, qui n'est pas une science exacte au sens de, comment dire, à la fois de David Hume et de Karl Popper. Même si on peut reproduire des choses, il n'y a pas, même s'il y a des modèles mathématiques, il n'y a pas dans ces disciplines un résultat absolument prédictif. Et de proche en proche, on arrive vers les sciences humaines qui, elles, sont de moins en moins prédictives. Et nous avons là le phénomène OVNI qui est carrément non prédictif. Et curieusement, ça rappelle la nature d'une branche très importante de la physique qui est la mécanique quantique, qui est de nature non déterministe. Et nous reviendrons un peu plus tard sur ce facteur non déterministe de la mécanique quantique, puisque l'une des lois, une troisième loi, si je puis dire, qui ressort de l'expérience en question, c'est que plus il y a de temps, moins il y a d'espace, et inversement, plus il y a d'espace, moins il y a de temps. Et c'est, pourrait-on dire, le grand pont entre la relativité générale et la mécanique quantique auquel on pourrait s'attendre de prime abord, mais qui ne semble pas être évident pour beaucoup de scientifiques, parce qu'effectivement il y a un certain nombre de lois et d'expériences qui ne nous ont pas amenés à cette conclusion, parce que nous sommes partis d'un certain nombre de théories qui sont déjà compliquées à concevoir, à établir, à formaliser, car il faut bien dire que l'équation ne décrit pas la réalité, elle décrit ce qui est admissible. Un physicien m'avait écrit lors d'un premier article en disant que il est vrai qu'aujourd'hui la science est technicienne parce que on s'accroche à ce que l'on connaît, on s'accroche à ce que l'on peut prévoir et mesurer, et que s'approcher du réel est quelque chose d'extrêmement compliqué, parce qu'il faut formaliser sur du formalisme. Il faut rajouter des couches, si je puis dire, et mécanique quantique est là pour nous le prouver, puisqu'il faut parfois gérer 31 critères de mesure, d'observation, faire sortir tous les impondérables d'une expérience afin d'obtenir un résultat, pour obtenir finalement la relation entre la cause et l'effet. Et précisément, plus il y a de degrés de liberté, donc plus la densité de temps est importante, et moins le principe de cause, ou de causalité plutôt, moins le principe de causalité est prédominant. Alors ça fait partie, je dirais que c'est un prolongement de cette idée de degré de liberté que l'on obtient avec une densité de temps supérieure. Alors, le problème des ovnis, puisque nous parlions d'induction et de déduction, c'est qu'il faut, dès lors que nous acceptons tous la réalité des ovnis, nous sommes tous contraints à la même conclusion. Et c'est bien sur ce terrain-là que se bat le scepticisme, en réfutant les assertions d'origine, les prémices, et ainsi ne pas être contraint à accepter la conclusion à laquelle parvient tout chercheur pour le moins objectif. Même si on ne comprend pas ce qui se passe, au moins on doit accepter qu'il y ait des éléments que l'on ne peut pas atteindre, en tout cas par nos connaissances actuelles. Dans ce livre dont j'ai parlé tout à l'heure, Le Jugement Dernier, il y a une phrase qui me plaît beaucoup et qui dit: il y a deux types d'efforts, se justifier et se remettre en question. Le reste de l'activité humaine ne dépend que de ces deux efforts-là, et il faudra bien que la science puisse se remettre en question profondément pour pouvoir avoir accès à des arcanes un peu plus élevés, ne serait-ce que pour faire entrer dans son champ de connaissances les phénomènes OVNI. Rapidement, on va peut-être aborder la problématique des ovnis. Nous sommes passés d'abord par la phase expérimentale, hein, par la description de l'expérience du témoin. Et quand on aborde le problème des ovnis, on doit d'abord se demander ce que c'est. C'est donc un objet volant non identifié. Mais le mot même objet est peut-être, pour certains superfétatoire et pour d'autres ressemble à une conclusion. Parce que il faut bien avouer que la plupart des ovnis ressemblent à de simples lumières. Elles passent même parfois très très vite, mais elles ressemblent simplement à des lumières. Alors vous connaissez certainement la classification du CEPRA, qui est donc le service d'études des phénomènes rares. Cette classification a quatre catégories. D'abord les phénomènes identifiés, les phénomènes qu'on peut effectivement associer aux phénomènes connus, naturels. Les phénomènes explicables, les phénomènes manquant de données pour les expliquer, et enfin les phénomènes inexplicables en l'état actuel de nos connaissances, et dont on dit qu'ils représentent que 5% de la totalité des cas présentés. Alors je voudrais quand même apporter une précision sur cette classification, et qui peut-être est oubliée par beaucoup d'exégètes en matière d'ufologie, c'est qu'une explication possible ne signifie en aucune manière qu'elle soit conforme à la réalité d'un phénomène. Je veux dire par là que le fait de diminuer à peau de chagrin les phénomènes inexpliqués ne signifie pas dans la réalité que ceux qui ont une explication possible sont des phénomènes naturels. Vous connaissez peut-être également le docteur Joseph Allen Hynek, qui a été l'un des grands précurseurs de l'ufologie américaine notamment, et même mondiale, et qui est d'ailleurs l'auteur d'une phrase extrêmement célèbre, que j'ai repris d'ailleurs dans cet article, qui disait « Quand arrivera la solution à l'énigme des ovnis, je pense qu'elle se révélera être non pas juste un pas de plus dans l'avancement de la science, mais un saut quantique puissant et inattendu. » Vous imaginez bien entendu que ce genre de phrase fait plaisir à ceux qui défendent l'idée que effectivement le temps a trois dimensions, parce que c'est bien quelque chose auquel on ne s'attend pas, puisque tout le monde, dans la presse, dans les médias, insiste pour dire que le temps est une seule dimension et même associé à une dimension d'espace. Alors, le docteur Joseph Allen Hynek a décrit des types de rencontres et qui sont relativement simples pour les premières et beaucoup plus complexes à la fois à accepter et à comprendre pour les dernières. Tout d'abord, les lumières nocturnes, c'est la plupart des cas d'OVNI. Donc c'est toute lumière anormale observée de nuit, dont l'origine peut être des signalisations lumineuses d'avions, des étoiles, des météores. Il y a ensuite des disques de lumière du jour, des ovnis vus dans le lointain, durant la journée, et les ovnis de cette catégorie peuvent avoir d'autres formes que le disque, comme des cigares, comme des triangles, comme des ovoïdes. Il y a toute une série de formes, mais il faut bien avouer quand même que la grande majorité des ovnis est de forme discoïdale depuis, en tout cas, une bonne cinquantaine d'années. Il y a ensuite la trace radar, quand les ovnis sont suivis par radar et sont vus simultanément par un observateur. Alors, on ne peut pas dire que l'expérience de 83, pour laquelle j'ai été témoin, à savoir un beau plot radar bien brillant, bien large, se déplaçant à 28 000 km/h, puisse entrer dans cette catégorie, sachant qu'il n'y a pas une observation visuelle en même temps. Enfin, toujours est-il que pour l'expérimentateur, à savoir le contrôleur aérien, il n'y a aucun doute possible. Bernard Tonnel me posait la question de savoir s'il ne pouvait pas s'agir d'un effet d'inversion de température, pour les spécialistes, vous savez tous que l'inversion de température est le phénomène qui est lié aux masses nuageuses. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu une masse nuageuse se déplacer à 28 000 km/h. Il y a ensuite les rencontres approchées. Alors il y a 5 types. Il y a 3 types officiels de rencontres approchées et 2 types qu'on appelle contacts directs, qui sont déjà un peu plus, je dirais, spéculatives pour ceux qui étudient l'ufologie, parce qu'elles engagent des notions humaines d'abord, et puis des notions plutôt de perception subjective, ce qui est extrêmement, effectivement, délicat à interpréter. Alors le premier type de rencontre, c'est, on parle en France de RR1 ou aux États-Unis de CE1, c'est un ovni qui est proche de l'observateur, soit à 500 pieds, soit à 1500 mètres maximum. Le deuxième type, c'est un ovni qui laisse des traces sur le sol, qui provoque des brûlures, qui provoque également des paralysies chez l'être humain, qui a peur les animaux, qui crée des interférences avec des postes de télé ou des moteurs de voiture, et voire même des avions, puisque André-Jacques Colbeck, qui avait été présent lors d'une émission précédente, m'a indiqué par mail sur une mailing list, m'a indiqué qu'il y a eu 53 interférences avec des avions, interférences électromagnétiques avec des avions qui avaient été répertoriées par un grand ufologue. Alors c'est quand même intéressant parce que ça signifie que la sécurité aérienne peut être engagée à proximité d'un ovni. Pour autant, il n'y a pas d'accident répertorié dû à ce phénomène, en tout cas. Le troisième type, RR3, rencontre du troisième type, vous connaissez tous, hein, c'est même l'objet d'un film très, très connu mondialement, avec mis en scène Jacques Vallée, à travers le personnage Alexandre, tu te rappelles peut-être, non ? Alors, ça me reviendra tout à l'heure. En tout cas, c'est un film extrêmement connu qui voit effectivement la rencontre des êtres humains avec des êtres non humains qui sortent en l'occurrence de leur vaisseau. Donc la rencontre du troisième type, c'est une catégorie hein, dans le monde de l'ufologie, ou RR3 ou CE3 pour les anglo-saxons, c'est finalement le premier ou le deuxième type de rencontre avec des occupants visibles. Je dirais que là, ça commence à devenir extrêmement sérieux parce que non seulement on voit un engin, mais on voit également ceux qui les occupent. Il y a ensuite deux autres catégories de contacts, qui est le quatrième type, hein, avec des enlèvements. On parle d'abducté, en langage anglo-saxon, pardon, qui est un phénomène qui est particulièrement répandu aux États-Unis, et je dirais que d'aucuns diraient, voire même les mauvaises langues, il n'y a qu'aux États-Unis qu'il y en a. C'est surtout là qu'ils sont repérés parce qu'on en parle peut-être avec un peu moins de suspicion ou un peu moins de pudeur, alors que dans les autres pays, c'est quelque chose qui est déjà plus difficile à accepter. Pour autant, bien entendu, que l'on envisage la réalité de ces contacts directs de quatrième type. Et enfin, le contact du cinquième type, RR5, dont je dis que j'ai été témoin, c'est une communication entre être non humain et être humain qui est donc réalisée. Alors là, en l'occurrence, c'est une communication qui est télépathique. Alors, comment peut-on admettre qu'une communication soit télépathique pour un être humain, nous qui sommes plongés dans la communication radio, télévisuelle, la communication par l'écrit, par l'ordinateur? Eh bien, c'est assez indescriptible, parce que l'information est directe, votre cerveau est baigné dans l'information. Mais en réalité, il ne s'agit pas du cerveau, il s'agit d'un état en quelque sorte supérieur à votre état de conscience habituel. Et on parle d'ailleurs d'état de conscience modifié. Mais en tout cas, quand il y a communication télépathique, vous avez une certitude qui est supérieure à l'état de veille tel que nous le connaissons habituellement. Donc ce cinquième type est nécessairement beaucoup plus rare parce que en réalité, il ne l'est pas. En tout cas, c'est comme ça que je conçois les choses. Il ne l'est pas, il est même très très courant, à ceci près que tout le monde n'en a pas conscience, ou tout le monde beaucoup de gens plutôt se refusent à admettre la réalité de ce contact. Nous sommes tellement empêtris par et dans notre subconscient, par notre réalité matérielle, que tout ce qui peut en sortir est nécessairement douteux. Et de fait, nous évacuons l'expérience tant elle est inhabituelle ou tant elle sort de nos schémas de pensée. Et finalement, c'est un petit peu comme le phénomène OVNI, même en observation simple, observation visuelle simple. Eh bien, le problème du témoignage, c'est d'abord la fidélité de la transcription, c'est l'interprétation subconsciente qui en est faite, c'est l'utilisation de ses propres mots pour le décrire. Et du reste, comme beaucoup d'autres, j'ai peut-être des difficultés à interpréter et à retranscrire ce que j'ai vécu. Mais toujours est-il que quand on vit ce genre d'expérience, on est extrêmement marqué au point de tenter de comprendre par tous les moyens ce qui s'est passé. Donc on a effectivement une fragilité des témoignages qui est avérée dans beaucoup de cas. Et donc finalement c'est la maturité perceptive qui est en jeu. Et là il n'y a que l'observateur ou que le témoin qui peut peut-être effectivement se donner une échelle de valeur dans cette maturité ou en tout cas dans la réalité de l'expérience. Donc voilà pour les types de rencontres. Les caractéristiques physiques des ovnis. On va se rapprocher un peu plus du thème principal de la soirée, à savoir la propulsion des ovnis. Comment peut-on caractériser les ovnis? Eh bien, on a quand même des phénomènes qui semblent mystérieux, encore une fois, qui semblent mystérieux, comme les ondes radio du début du siècle semblaient mystérieuses. On disait même que Edison, me semble-t-il, et devait être certainement ventriloque pour pouvoir faire fonctionner un phonographe, tellement c'était incroyable pour les savants de l'époque, d'admettre qu'il y ait effectivement un appareillage qui puisse retranscrire le son de la voix humaine, même si celui-ci était extrêmement déformé, il partait un peu plus dans les aigus que l'on peut l'entendre habituellement, mais toujours est-il que le phonographe a fait des émules, puisque les disques CD aujourd'hui se vendent par millions, et grâce à eux d'ailleurs, la radio que vous écoutez actuellement fonctionne, et je vais d'ailleurs vous proposer d'écouter une petite séance musicale pour vous le prouver.
Thank you.
rappelle que vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, dans les studios ce soir, Eric Julien qui nous parle de propulsion des ovnis. Il y va étape par étape et vous pouvez faire écouter cette émission à des amis qui sont au-delà de 100 km environ autour de Paris en allant sur ici-et-maintenant.com. Ça vous permettra d'écouter l'émission en direct, n'hésitez pas une seule seconde, ici-et-maintenant.com, et je redonne la parole à Eric Julien.
Merci Alexandre. Nous abordions donc les caractéristiques physiques des ovnis. J'en profite pour parler d'une expérience relativement récente, celle d'octobre 2002, où quelques-uns des membres de ma famille, pardon, alors que nous étions en train de déménager, ont aperçu un véritable balai de lumière. Nous sommes du côté d'Arras, dans le nord de la France, et ce balai de lumière, il y avait entre 10 et 15 lumières en question, évoluer comme s'il s'agissait d'un combat aérien, et c'est extrêmement impressionnant de voir effectivement des lumières, ou plutôt des étoiles, on pourrait les appeler ainsi, des étoiles qui varient en intensité, qui varient en taille, et surtout qui varient énormément en position. Bien entendu, il ne s'agissait pas d'étoiles. Alors, tout ça nous amène aux caractéristiques, principales et récurrentes des ovnis, et qui, je le répète, ont des similitudes avec les phénomènes paranormaux. D'abord, ils sont extrêmement rapides. Il y a de très grandes accélérations, il y a des disparitions sur place possibles, il y a la forme sous-coupie qui est très majoritaire, bien qu'il y ait en 89-90 une vague d'ovnis sur la Belgique, et même d'ailleurs sur le nord de la France, avec des formes triangulaires. Mais globalement, sur l'ensemble de la planète, sur l'ensemble des 50 ans ou 55 ans d'historique ufologique, la forme sous-coupique est très majoritaire. Les témoins, bien que contestables, et contestés aussi par beaucoup, qui ont pénétré l'intérieur des vaisseaux, affirment que l'intérieur est beaucoup plus grand que l'extérieur. Et je rejoins en ça d'ailleurs Jean-Pierre Petit quand il dit également que l'intérieur est nécessairement plus grand que l'extérieur. Enfin, en tout cas, quand on voit l'ovni de l'extérieur, on ne peut pas imaginer la dimension qu'il peut avoir à l'intérieur. Il y a également la polyvalence des milieux de déplacement. Nous avons vu des ovnis dans l'eau, sortir de l'eau, dans l'air, et bien entendu, on imagine très aisément que ces ovnis puissent se déplacer dans le vide spatial, donc le vide interstellaire. Et il y a également une constante, enfin en tout cas un phénomène qui est relativement fréquent, qui est celui du rotor tournant, ou en tout cas le disque semble tourner, il y a quelque chose qui doit tourner dans ces ovnis. Et bien entendu, ces caractéristiques peuvent être tout à fait différentes selon les témoignages, selon la perception des personnes, pardon, et on ne peut pas dire que c'est une loi, en tout cas tout ce que j'ai décrit, mais en tout cas c'est quelque chose qui revient très rapidement. Alors, ce qui est le plus difficile à admettre, c'est l'accélération prodigieuse des ovnis. Dès lors qu'on se place dans la perspective du temps à trois dimensions, que la densité du temps peut augmenter, on imagine très aisément finalement que les ovnis accélèrent que très peu s'ils changent de densité de temps. Changer de densité de temps, c'est transformer la seconde que nous vivons à l'instant T en minutes, puis en heures, et dans ce cas, l'accélération n'existe quasiment plus, et il n'y a pas de contrainte physique qu'on peut imaginer comme étant impossible à vivre, voire même à survivre, telle qu'on peut les imaginer dans des avions en réaction, lorsque un pilote subit 5, 6, voire près d'une dizaine de G lors d'une éjection. Il y a même des éjections qui ont eu lieu à 19 G. 1G étant le poids normal, 19G étant 19 fois son poids. Alors, ces ovnis sont extrêmement étranges, et il y a, bien entendu, toute une série d'hypothèses pour expliquer ces phénomènes, qui vont de la reine de ces hypothèses, qui est l'hypothèse extraterrestre, à d'autres hypothèses, qui sont l'existence d'autres dimensions, l'hypothèse intraterrestre. Il s'agirait là en l'occurrence de d'êtres qui vivraient sous la Terre. L'hypothèse ultra top secret, l'hypothèse manifestation d'êtres divins, l'inconscient collectif, les phénomènes naturels dont certains sont inconnus, le folklore ufologique et le folklore du passé, l'intox lucrative et le monde des illusions. Alors ces 10 hypothèses, nous les devons notamment au GEPRA, qui est comment dire, une association et qui a élu domicile sur un site. Il suffit de taper GEPRA sur un moteur de recherche. Ces hypothèses, à mon sens, existent, coexistent tout en même temps, parce qu'elles ne se réfutent pas les unes les autres, mais il y a, à mon sens, une hypothèse majoritaire qui est l'hypothèse extraterrestre, mais je le dis pour l'avoir vécu, non pas pour m'en être fait une religion particulière. Il y a d'ailleurs dans le monde de l'ufologie, puisque nous parlons d'OVNI ce soir, il y a différentes versions. On a plusieurs façons d'aborder l'ufologie. Je les ai classées en 6 catégories. La première, c'est celle du scepticisme. Et j'insiste ce soir pour dire que il y a deux formes de scepticisme. Il y a, si je puis dire, le scepticisme borné, qui consiste à réfuter systématiquement, parce que ça n'entre pas dans nos schémas de pensée. Et ce n'est pas un jugement de valeur du tout, hein. D'ailleurs, dans aucune des versions que je vais énoncer, il n'y a de jugement de valeur, mais simplement un constat de comportement. Il y a le scepticisme éclairé. Le scepticisme éclairé, c'est, je dirais, celui qui est indispensable à tout chercheur. Je crois que le doute et l'humour sont véritablement les deux jambes qui font avancer le pèlerin sur le sentier de la connaissance. Et il est important et indispensable même de douter systématiquement des expériences que l'on vit, ne serait-ce que pour peut-être les recadrer dans une perspective plus large. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé, peut-être par l'expérience de mars 2002, presque de façon involontaire, parce que finalement, il faut bien se poser des questions et douter sur son expérience pour lui donner une valeur suffisamment grande, suffisamment forte à titre personnel, pour qu'elle puisse marquer ensuite sa propre vie. Il y a la version de l'ufologie que j'appelle la version philatélique. Alors c'est une version dans laquelle on va effectivement se créer ou créer pour les autres une base de données. Et on va avoir un nombre de cas spectaculaires et on va les amasser, on va les compiler, on va les ranger, les classer de façon à en reparler et toujours pouvoir les analyser. Il y a la version conspirationniste qui consiste à dire quelqu'un nous cache quelque chose et le quelque chose en question est nécessairement extrêmement négatif. Sinon, personne ne cacherait rien, quoi que ce soit, pardon. Il y a la version Lunatic Fringe, qui est une version très répandue aux États-Unis, qui consiste à dire il y a tout un bestiaire d'aliens, un bestiaire d'êtres extraterrestres, et que dans ce bestiaire, il est important de reconnaître les bons des moins bons. Il y a la version New Age, qui est une version plus tournée vers la spiritualité et vers une nouvelle approche de l'esprit. Et il y a la version scientifique, celle qui nous intéresse ce soir, qui tente d'approcher au mieux la théorie ou les éléments de la technologie ou des technologies que nous connaissons déjà ou qui sont émergentes. Et cette version, c'est celle de la propulsion des ovnis qui nous intéresse. Pour autant, à titre personnel, je n'en rejette aucune de ces versions, puisque là encore, elles sont à la fois cohérentes et possibles, mais c'est pas le propos de ce soir, donc on va si vous le voulez bien, se cantonner à décrire le fonctionnement des ovnis tel que, en tout cas, nous pouvons le percevoir. Avant de décrire ces technologies, avant de décrire ces moyens de propulsion, on va, si vous le voulez bien, revenir sur, je dirais, les canons ou les modèles jusqu'alors estimés de la conquête spatiale et essayer de comprendre que nous sommes finalement tout à fait incapables, avec les modèles actuels, de pouvoir conquérir quoi que ce soit dans l'univers. Tout d'abord, les distances. Les distances sont astronomiques. Vous connaissez, Jean-Pierre Petit l'a rappelé, la vitesse de la lumière est donc de 300 000 km/s. C'est une constante, mais c'est une constante, à mon sens, dans notre espace-temps. Donc on sait que E égale mc2, cela signifie qu'il faut une énergie infinie pour déplacer une masse qui, du coup, devient infinie, pour atteindre la vitesse de la lumière. Et donc, ne serait-ce que cette difficulté nous interdit de l'atteindre. Et il disait, à juste titre, que la vitesse c, la constante c de la vitesse de la lumière, est une limite géométrique. Et nous allons voir qu'il est relativement simple de la contourner dès lors que nous acceptons l'idée que l'univers est fractal et que des univers d'espace-temps différents dans lesquels la densité de temps est différente et le temps lui-même est l'espace pendant lui-même est différent. Nous verrons effectivement que cette limite, donc cette constante acceptée depuis la relativité restreinte, eh bien, est une constante qui est arbitraire. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont bondir, mais vous allez peut-être comprendre, ou en tout cas si je suis suffisamment doué pour l'expliquer, que c'est relativement aisé à saisir. Vous savez aussi qu'une année-lumière, c'est à peu près 9461 milliards de kilomètres. Hein, j'oubliais quelques ordres de grandeur. Et ça fait bien entendu beaucoup. Que le système solaire fait environ 10 puissance 10 kilomètres de large. Que l'étoile la plus proche, Alpha du Centaure, est à un peu plus de 4 années-lumière. C'est-à-dire 10 puissance 13 km. La galaxie, notre Voie lactée, fait à peu près 10 puissance 18 km et que la frontière de l'univers connu est à environ 10 puissance 24, 10 puissance 25 km, ce qui est bien entendu considérable et qui est parfaitement inatteignable par nos moyens actuels. Alors, ce qui a fait dire à Fermi que nos extraterrestres, eh bien, soit auraient déjà dû être là, soit il leur est impossible d'être là. Effectivement, il a raison. Dès lors que nous ne pouvons pas soupçonner l'existence de dimensions supplémentaires, eh bien, Fermi avait raison de dire que nos extraterrestres, puisque nous ne les voyons pas, eh bien, ne peuvent pas être là. Malgré d'ailleurs toutes les découvertes de l'exobiologie, qui consistent à démontrer de jour en jour que l'existence extraterrestre est tout à fait possible dans l'univers, et d'ailleurs, il y a assez peu de gens pour réfuter cette hypothèse, mais tant que nos extraterrestres sont très loin, on se porte bien. Donc, Fermi disait, nous ne voyons pas d'extraterrestres, donc ils ne peuvent être ici. Alors, lui ne voit pas, par contre, beaucoup d'ufologues en voient quand même. Hein. Donc, s'ils en voient, c'est qu'ils sont là. Alors, il va falloir trouver la solution intermédiaire. Alors, parmi les défis de la conquête spatiale, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, il y a le temps. Bien entendu, si on va loin, on met beaucoup de temps pour aller loin. Donc la première étoile, en l'occurrence, est à un peu moins de 9 ans. Mais il faut compter, enfin un peu moins de 9 ans, dès lors qu'on atteint la vitesse de la lumière, hein, bien entendu. Mais il faut compter dans ce temps, il faut rajouter plutôt l'accélération et la décélération. Si nous étions qu'à la moitié de la vitesse de la lumière, nous mettrions au moins 25 ans et il y a assez peu de chances pour que la première étoile venue comporte de la vie, si nous voulions la visiter, ou visiter tout au moins sa périphérie. Donc, on peut estimer qu'une étoile à 50 années-lumière serait une bonne candidate, et nous aurions alors un voyage de 250 ans, en comptant le séjour, bien entendu. Il y a le défi, les limites de la physique, hein, il faut emporter une charge énorme pour pouvoir se propulser. Et il y a également la protection contre le rayonnement cosmique, qui n'est pas d'ailleurs le rayonnement cosmique, comme beaucoup le pensent, un rayonnement d'ondes, mais un rayonnement de particules qui est lié donc aux étoiles, à l'activité des étoiles. Il y a également le défi psychologique, parce que s'isoler dans le noir, dans le vide absolu, dans l'éloignement, voire même dans la folie, c'est en soi un défi qui n'a jamais été connu et pour lequel l'homme n'est pas préparé. Et il y a effectivement des rapports humains difficiles qui peuvent émerger dans un équipage. Il y a le défi médical, la prévention des maladies notamment, le maintien de la pesanteur artificielle, sinon nous pourrions avoir des déperditions musculaires énormes. Et il y a l'emport des moyens de subsistance, qui lui aussi est une contrainte forte, puisque l'expérience Biosphère 2, par exemple, a été relativement peu concluante, notamment pour le maintien de l'air à un état satisfaisant, y compris le maintien de l'eau. Donc cela, pour dire qu'en conclusion, le défi de la conquête spatiale pour aller un peu au-delà de notre système solaire comporte beaucoup trop de risques. Et je dirais que le premier risque, et qui est sous-jacent à toute exploration, c'est le risque financier, puisque la rentabilité serait certainement voisine de zéro. Il n'y aurait pas une seule compagnie d'assurance ou de réassurance qui accepterait que l'on parte pour 250 ans sans avoir le résultat de cette expédition au bout de cette échéance. Du reste, vous savez que la science elle-même, aujourd'hui, recèle un nombre très important de théories, et que finalement, c'est bien la théorie la moins risquée que l'on teste. Hein. Alors effectivement, on a pour 2007 prévu la construction du grand collisionneur du CERN. C'est un investissement qui est certes extrêmement important, mais pour la connaissance fondamentale. Mais il y a également un risque financier qui est énorme, et on ne construit pas des collisionneurs tous les jours. Tout cela pour dire que tôt ou tard, il y a nécessairement une pensée dominante dans la science qui va prévaloir et qui va faire en sorte que beaucoup de théories vont coexister, vont perdurer un certain temps, et il sera difficile de les vérifier. Tout ça pour dire qu'il faut quand même relativiser nos connaissances, et les procédés par induction sont, je dirais, inévitables dès lors que nous n'avons plus les moyens de les vérifier, enfin, de vérifier les théories. Je vais, si vous le voulez bien, j'avais prévu un diagramme assez lourd pour vous parler de la propulsion des ovnis. Je vais aller directement sur, sur les problèmes de propulsion classique, hein, qui allient en fait un principe actif et un principe passif. Le principe actif, c'est le moteur lui-même, et le principe passif, c'est le milieu dans lequel on évolue. Et les voiles, par exemple, pour les bateaux, les planeurs sont une forme de voile, ou les voiles solaires sont des principes passifs, puisqu'on utilise finalement l'énergie du milieu pour se propulser. Le problème de la propulsion aujourd'hui, c'est nos lois de la thermodynamique qui nous interdisent en réalité d'avoir un rendement supérieur à 1, un rendement énergétique supérieur à 1, puisqu'il y a toujours nécessairement des perditions de l'énergie sous diverses formes, notamment sous forme thermique et sous forme de frottement, enfin forme mécanique. Et donc, nous atteignons difficilement, avec les meilleurs procédés, des rendements qui soient supérieurs à 80%, et là, je suis extrêmement optimiste. Globalement, le principe des moyens de propulsion aujourd'hui, c'est une transformation d'une matière en énergie, et surtout par expulsion de matière, y compris d'ailleurs pour les moyens les plus sophistiqués envisagés. Je pense notamment au M2P2, qui est le Mini Magnetospheric Plasma Propulsion, qui est un projet qui sera lancé en 2003. C'est un petit vaisseau de 140 kg qui sera mis en mouvement à 288 000 km/h et qui sera donc en système local, c'est-à-dire dans notre système solaire. Alors 288 000 km/h, c'est un 3600e de la vitesse de la lumière, si vous l'aurez compris. Et donc c'est un projet qui est développé par le docteur Robert Wingley de l'université de Washington, qui est quand même intéressant puisqu'il met en œuvre un champ d'ions qui forme une voile géante et qui va être donc propulsé par le rayonnement solaire. Il y a quelques astuces comme les bombes gravitationnelles qui sont utilisables par tous les vaisseaux spatiaux, qui consistent à aller de planète en planète en utilisant la force gravitationnelle de ces planètes. Mais c'est une simple application des lois de Newton, hein, mais avec une orbite précise qu'il faut bien entendu pouvoir calculer. Et il y a un terme, ou tout au moins un espoir, qui est l'énergie libre. Énergie libre, j'y viendrai dans un petit instant, qu'il ne faut surtout pas confondre avec nos débats actuels, nos débats écologiques qui consistent à mettre en œuvre ou à promouvoir des énergies comme l'énergie marémotrice ou éolienne, ou les transformations de déchets, vraiment. Énergie libre est quelque chose de tout à fait nouveau et qui fait appel aux plus grandes avancées de la science, et qui consiste notamment à utiliser l'énergie du vide quantique. L'énergie, on l'a dit, c'est le problème. C'est aujourd'hui, c'est le pétrole, c'est ce que j'appelle l'œuvre au noir, et il y a l'œuvre beaucoup plus élégante qui consiste à tirer parti du vide qui se trouve entre nos électrons et les noyaux des atomes, de façon effectivement à trouver de quoi avoir un rendement supérieur à 1. Alors, tout à l'heure, Jean-Pierre Petit, on est toujours dans l'ancien monde inertiel, hein, lorsqu'on évoque l'expulsion de matière. Dans l'ancien monde, il y a également effectivement la MHD qui consiste à ioniser l'atmosphère. Jean-Pierre Petit l'a très bien présenté et a même lui-même, et cela est tout à son honneur, indiqué que la MHD n'était pas la solution pour évoquer la propulsion des ovnis. Dès lors que, un, on est en atmosphère, donc juste 80 km d'épaisseur, imaginez-vous que pour un voyage de plusieurs années-lumière, on ne fasse un engin que pour les 80 km restants, ou les derniers 80 km. On peut imaginer que c'est pas très, astucieux. D'autant que la MHD n'est pas nécessairement, la réponse à nombre d'observations. Mais bon, n'insistons pas puisque Jean-Pierre Petit lui-même admet qu'il y a nécessairement d'autres voies de recherche qui puissent expliquer l'apparition des ovnis et leur technologie. Alors, le spectre électromagnétique, qui est certainement au centre de tous les débats dans la propulsion des ovnis, comporte en fait, et est basé d'abord sur, sur les découvertes de Maxwell, qui démontra que les oscillations des ondes électromagnétiques étaient celles de deux champs électriques et magnétiques, perpendiculaires l'un et l'autre, et perpendiculaires à la direction de la propagation de l'onde. Les micro-ondes, dont on parle beaucoup, qui seraient donc effectivement à l'origine des manifestations d'OVNI, et notamment des traces physiques laissées au sol. Les micro-ondes se situent entre les ondes radio et les infrarouges. Alors on ne sait pas nécessairement se dire où sont les micro-ondes, mais si une bande de fréquence qui est entre 10 puissance 9 et 10 puissance 13 Hertz, et qui sont loin des ondes lumineuses visibles, qui sont autour de 10 puissance 15 Hertz, très loin des ultraviolets, très très loin des rayons X, encore beaucoup plus loin des rayons gamma, dont la longueur d'onde ultime se situe autour de 10 puissance moins 16 mètres, et qui correspond donc au rayonnement émis par les noyaux atomiques et les réactions nucléaires notamment. Et plus on monte dans ces fréquences, et plus le degré d'énergie, plus l'énergie monte également. Et là, je voudrais faire un petit aparté sur les ondes électromagnétiques, parce que nous n'avons pas encore pu démontrer qu'il n'existait pas des ondes de fréquence supérieure à celles qui sont émises par les rayons gamma les plus élevés, ou plutôt les plus petites longueurs d'onde des rayons gamma, ni même les ondes inférieures aux ondes radio qui se situent entre 10 puissance 6 et 10 puissance 9 Hertz. Donc ces limites inférieures et supérieures sont certainement habilitées, puisque précisément, je crois que là se situe, notamment pour les limites supérieures, là se situe la baguette magique, si je puis dire, de la propulsion des ovnis. Je passe un peu sur l'effet Doppler, dont les contrôleurs aériens sont une des applications. Je passe sur les interférences constructives, les interférences destructives, pour arriver à la relativité restreinte, qui fut donc découverte par Einstein en 1905, et qui dit une chose relativement intéressante pour notre sujet, c'est que plus on va vite, donc plus on s'approche de la constante de la vitesse de la lumière, et plus le temps ralentit. Alors ça, c'est un élément extrêmement important, c'est un signe, si je puis dire, c'est un élément fondateur de la densité du temps, ou du temps à trois dimensions dont la densité est l'une d'elles, parce que, effectivement, si le temps ralentit, c'est qu'il doit bien y avoir autre chose que un simple effet de l'approche de la vitesse de la lumière. Il y a un paradoxe qu'on appelle le paradoxe des jumeaux, celui de Langevin, qui dit que si deux personnes, qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement des jumeaux, mais qui ont en tout cas le même âge, l'un reste sur Terre, l'autre s'éloigne dans l'espace en augmentant sa vitesse progressivement et se rapproche de la vitesse de la lumière, eh bien celui qui se rapproche de la vitesse de la lumière sera moins vieux que celui qui sera resté sur Terre. Et donc, on se dit que lorsque les deux vont se retrouver, il y aura peut-être un écart de 8, 10 ans ou 40 ans, selon les calculs et selon les vitesses acquises par l'un des deux. Mais c'est une vue de l'esprit, parce que dès lors que on a atteint une vitesse déterminée, rien ne dit que lorsqu'on revient à la vitesse, enfin, ou plutôt à l'état initial, on ne vieillisse pas tout d'un coup pour revenir à l'âge qui serait donc celui du jumeau resté sur Terre. Et ça, c'est un élément qui est de plus en plus contesté. Je veux dire, ce paradoxe-là tombe de plus en plus, et beaucoup d'astrophysiciens admettent aujourd'hui que le fait même de revenir à la vitesse initiale, c'est-à-dire la vitesse zéro, est le paramètre qui va faire vieillir le jumeau qui s'est éloigné de la Terre. La relativité générale, eh bien, c'est l'énoncé de la courbure de l'espace-temps faite par la gravitation. On parle donc d'onde gravitationnelle. On parle de l'antigravitationnelle, où on voit une masse visible ou invisible qui agit comme une lentille pour focaliser la lumière qui est issue d'une source qui se trouve en arrière-plan donc de la masse en question. Et en relativité générale, donc la lumière suit la courbe, ou la courbure plutôt, de l'espace-temps qui est induite par la masse M et subit donc une déviation d'angle. Et c'est Eddington en 1919 qui, au cours d'une éclipse, va effectivement mesurer l'angle de déviation. On aborde rapidement la mécanique quantique, je dis rapidement parce que il faut arriver un peu plus vite vers le cœur des technologies possibles, ou en tout cas envisagées. La mécanique quantique se distingue d'abord par sa théorie probabiliste et non déterministe. Dès lors que l'on admet que plus on a d'espace, moins il y a de temps, et inversement, moins on a d'espace, plus il y a de temps, eh bien là, dans ce dernier cas, on est dans l'échelle de la mécanique quantique, hein, c'est-à-dire de l'infiniment petit, eh bien ça correspond parfaitement au degré de liberté qui est évoqué, ou que j'ai évoqué juste avant, où on dit effectivement que plus on a de densité de temps, et moins on est contraint, si je puis dire, par le milieu environnant. Et c'est effectivement une des observations très récurrentes du non-déterminisme, parce qu'aujourd'hui, c'est le principe d'ailleurs de l'incertitude d'Heisenberg, on ne sait pas mesurer la vitesse d'une particule en même temps que sa position. Parce que finalement, la particule se trouve dans des états de superposition, d'ailleurs il existe des fonctions de superposition, et des fonctions d'état qui vont déterminer son spin notamment et sa charge, et tant qu'on n'observe pas la particule en question, on ne sait pas dire avec certitude dans quel état nous nous trouvons. Et du reste, c'est l'un des paradoxes les plus difficiles, enfin pour l'instant on vit avec, mais les plus difficiles de la mécanique quantique, à savoir le chat de Schrödinger. Imaginons un chat enfermé dans une boîte dont le dispositif qui serait délivré par un proton délivre donc un poison. Et donc le dispositif ne sera actionné que si, par exemple, le spin du proton est positif. Or, tant qu'on n'observe pas le proton en question qui se trouve dans la boîte, on ne saura pas s'il est donc dans, comment dire, s'il a un spin positif ou un spin négatif. Ce qui signifie qu'on ne sait pas si le chat est mort ou non. Et donc, le pauvre Schrödinger se pose toujours la question, parce que, aujourd'hui, la physique quantique, on peut dire qu'elle est incomplète. Parce qu'elle ne peut pas, effectivement, déterminer le caractère vivant ou non du chat. Et beaucoup de physiciens estiment que la seule théorie prometteuse est celle de la décohérence. La décohérence, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement la dématérialisation de la matière. C'est un phénomène par lequel les particules passent dans un état où elles n'existent plus en tant que particules, mais uniquement en tant qu'ondes. L'un des autres paradoxes marquants de la mécanique quantique, dans laquelle d'ailleurs on a un bestiaire de particules où on compte 17 particules de matière et 17 antiparticules, ça fait quand même pas mal, où on a donc des fermions composés notamment de 6 leptons et de 6 quarks, lesquels sont pour les quarks divisés en protons et en neutrons. Et pour les leptons, on trouve les électrons, mais on trouve aussi d'autres formes de particules qui sont de la même nature que l'électron. Et aux leptons, on associe également des neutrinos, on a également la famille des bosons, qui sont là des vecteurs ou des interactions. Vous voyez que la mécanique quantique est quelque chose de très complexe, et pourtant là, nous n'avons décrit que le modèle standard. Un modèle standard qui est déjà pas mal en complexité, mais qui est largement insuffisant pour décrire la réalité ou le réel. Donc l'autre paradoxe marquant, c'est l'expérience de pensée EPR, pour désigner Einstein, Podolsky et Rosen, qui, sur la base de l'inégalité de Bell, avaient pensé qu'il y avait séparabilité entre les particules. La séparabilité signifie que les particules sont indépendantes l'une de l'autre, dès lors qu'elles sont séparées après une action sur elles. Or, Alain Aspect, un physicien extrêmement réputé, a démontré en 1982, par une expérience, qu'il y avait inséparabilité ou intrication du fait de la nature ondulatoire des corps qui entraînait en fait des paquets d'ondes grâce à la fonction d'onde, hein, donc, du même nom, et que donc la particule est partout à la fois et dans plusieurs états. Alors ça, c'est intéressant parce que ça signifie que, si on voulait pousser un peu loin, que la particule a le choix de sa position et finalement le paquet d'ondes est réduit au moment où on l'observe. Alors ça, pour l'instant, c'est une théorie. L'expérience a été, il est vrai, renouvelée en 1998, mais nous sommes toujours, aujourd'hui, sur un constat où, d'un côté, on a une inégalité de Bell qui est une démonstration mathématique, et de l'autre, une expérience, ou des expériences, qui donc correspond à une réalité, mais que nous ne savons pas complètement expliquer. Je voudrais parler des travaux de Laurent Nottal sur les fractales. C'est extrêmement important parce que c'est une des voies de recherche qui est les plus prometteuses. Et du reste, il y a un dernier, je crois que c'est la revue La Recherche, dans un numéro hors série qui est actuellement en kiosque et qui parle notamment des univers de l'univers fractal. Et je crois que là, on touche à une nouvelle façon de concevoir l'espace-temps. Que dit Laurent Nottal ? Il dit, en l'occurrence, que l'espace-temps devient fractal aux petites et aux grandes échelles de longueur. Et donc, c'est une extension de la relativité générale. Et sa théorie permet, avec beaucoup d'élégance, de rapprocher la relativité générale de la mécanique quantique. Alors, il dit que sur la base de la longueur de Planck, donc on va désigner LP, la racine carrée de la constante de gravitation universelle, ou la constante de Newton, par h barré, qui est en fait une autre façon d'écrire la constante de Planck divisée par 2π, le tout sur le cube de la vitesse de la lumière, eh bien cette longueur de Planck est considérée comme une asymptote, et donc c'est la plus petite échelle de la nature. Et inversement, il va désigner la longueur cosmologique, reliée aussi à la constante cosmologique, comme étant 1 sur racine carrée de grand A, on va dire, et que, en l'occurrence, il s'agit de la plus grande échelle de la nature. Donc, nous savons que les fractales, en tout cas, c'est la vision qu'on en a habituellement, c'est la reproduction à l'identique d'une forme à des échelles différentes, et que plus on zoome, et plus on va découvrir les mêmes formes se reproduire. Alors que pour lui, il ne s'agit pas du tout de cela. Il appelle d'ailleurs sa théorie la relativité d'échelle, sur laquelle d'ailleurs beaucoup de gens travaillent. Il dit que effectivement, il y a apparition de structures a priori nouvelles. Alors ça, c'est important parce que j'indique dans l'article que j'ai écrit, j'indique donc suite à cette expérience de mars 2002, j'indique que il y a une série de lois qui sont fondées dans l'espace-temps, donc dans l'échelle d'espace-temps à laquelle on s'intéresse. À savoir qu'il existe des lois qui fondent la structuration des échelles subatomiques, atomiques, cellulaires, ou plutôt moléculaires, cellulaires, jusqu'au corps, ensemble de corps, et j'en passe. Et donc, effectivement, Laurent Nautal, par équation, nous décrit sensiblement la même chose. Je voudrais également évoquer la théorie de l'information, qui est donc la structuration de l'information, qui finalement est une autre façon de décrire la mécanique quantique, qui a été abordée par Anton Zellinger, qui est un physicien quanticien autrichien de l'université de Vienne, et il dit, Zellinger, c'est une théorie qui s'attache non à l'objet, c'est-à-dire la particule, mais au rapport entretenu avec lui. La quantification, dit-il, la quantification apparente de la réalité correspond en définitive à la quantification structurelle de l'information. Alors là, c'est un véritable saut quantique, en l'occurrence, puisqu'il ne s'intéresse plus à la matière, il s'intéresse au rapport qui existe entre la matière, en l'occurrence, et l'observateur, mais surtout au rapport qui existe entre les particules, donc à leur structure. Je passerai les commentaires de Roland Omnes, qui est aussi un autre physicien, qui sont extrêmement intéressants, mais nous risquerions d'y passer la nuit. Et après tant d'équations, je vous propose de faire une petite pause musicale, pardon, et peut-être de retrouver un peu plus de sérénité et revenir dans notre monde réel. Thank you.
c'est le ciel au fond. 95.2. J'arrête quand je veux.
Sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, vous aurez reconnu la bande originale du film Contact pendant cette pause, et après cet Aphex Twin, rien à voir, mais vraiment rien à voir. Eric Julien est donc avec nous ce soir, il est dans nos studios, et ça fait environ 2 heures qu'il a commencé, et on y va tranquillement, il a fait un conducteur assez impressionnant. Et bon, on écoute tout ça, tous ensemble. Eric Julien, je te laisse la parole, je rappelle quand même aux auditeurs qui voudrait faire écouter cette émission en dehors des 100 kilomètres autour de Paris environ, où ils peuvent nous entendre avec une qualité acceptable, qu'il existe ici et maintenant.com et ça vous permet d'écouter l'émission en direct sur Internet. Eric, c'est à toi.
Bien, bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Nous avons donc abordé globalement la relativité générale, la mécanique quantique, mais il existe en réalité 3 théories qui fondent les connaissances les plus abouties aujourd'hui. La 3e théorie est celle de l'électromagnétisme. Alors c'est extrêmement intéressant l'électromagnétisme puisque c'est certainement l'une des voies d'étude les plus prometteuses qui soient pour comprendre la technologie des ovnis. Encore une fois, à l'issue de l'expérience de mars 2002 et celle de 90 aussi, hein, puisque dans celle de 90, j'avais vu l'intérieur d'un vaisseau et son fonctionnement avec un 4-corps de technologie, un rotor qui tournait dans une chambre à vide à une vitesse extrêmement élevée, un réseau supraconducteur qui est donc de nature cristalline, hein, la supraconductivité, certains d'entre vous la connaissent. C'est un état de la matière dans laquelle le passage de comment dire du courant électrique ne connaît pas de résistance et donc il n'y a pas de déperdition, il n'y a comment dire en l'occurrence la deuxième loi de la thermodynamique n'est pas vérifiée. Et il y a un tore qui dans lequel il y a quelque chose qui tourne à très très grande vitesse et qui fait la périphérie du vaisseau. Et enfin, 4e corps de technologie, un cristal, qui lui a un pouvoir émetteur extrêmement grand, qui est à la fois d'ailleurs un émetteur et un récepteur, et qui va mettre en harmonie ou en harmonique les fréquences de ce vaisseau. De ce vaisseau qui est habité. Hein, ça, je tiens à le préciser et le souligner. Alors, l'électrodynamique, qu'est-ce que c'est ? L'électrodynamique, c'est d'abord basé sur les mathématiques de Sir Edmund Whittaker, pour les anglo-saxons, et c'est le prolongement de l'électromagnétisme de Maxwell, tout simplement, à ceci près que c'est un peu plus compliqué, et qu'on met en œuvre des mouvements, et notamment des mouvements tournants. Et on atteint rapidement l'idée que l'électromagnétisme est lié au vide, car le problème du vide est fondamental en physique. Et on attend encore les lettres de noblesse du vide quantique. Alors, la notion de vide quantique et même de gravitation quantique qui est liée, c'est pas une notion qui est nouvelle, hein. Elle a émergé dès le début des études sur la mécanique quantique, mais elle est revenue, hein, ces 10 ou 15 dernières années, elle est revenue en force parce que on a effectivement progressé, un, dans la formalisation de la mécanique quantique, et deux, dans les observations qui ont été faites, grâce notamment aux grands collisionneurs de particules, ce qu'on appelle des cyclotrons ou des synchrotrons. Et donc, plus on a amassé d'informations et de connaissances, et plus on a pu aller un peu plus loin dans la formalisation. Alors justement, l'électrodynamique, permet de comprendre certains phénomènes de l'optique non linéaire, c'est la possibilité d'une réelle ingénierie du vide, c'est l'extraction directe d'énergie à partir du vide, et donc avec la manipulation de la gravitation et de l'inertie, et nous allons voir dans un instant comment. C'est l'électrodynamique utilise le formalisme des quaternions qui était dès le départ érigé par Maxwell lui-même et qui et l'électrodynamique enfin est un sous-ensemble d'une théorie des champs unifiés qui est chère là cette fois-ci à Mendelssohn à partir du développement du tenseur d'espace-temps de la relativité d'Einstein. Vous voyez que tout se recoupe. Et précisément, j'écris dans un prolongement de l'article que j'avais donc indiqué tout à l'heure sur les différents sites, que effectivement, le tenseur d'espace-temps d'Einstein est à rapprocher de la notion d'univers fractal, qui dans chacun de ces univers, effectivement, il pourrait se trouver une tension qui permet effectivement de gérer la relation masse-énergie. Et cette tension est finalement autant répétée qu'il existe d'espace-temps. Alors, il faut indiquer quand même que la force électromagnétique est comme la gravitation. Alors ça, c'est un indice extrêmement fort pour la connaissance scientifique. Enfin, c'est pas nouveau, loin de là, mais c'est un indice. Comme est indice du reste, le vide de l'espace qui ressemble beaucoup, en tout cas non pas dans sa forme, mais dans ses dimensions, au vide quantique qui sépare donc les électrons du noyau atomique constitué donc de protons et de neutrons. Donc, ce qui lie finalement la force électromagnétique et la gravitation, c'est que les deux définissent une donnée en fonction inverse du carré d'une autre. Alors c'est quand même assez formidable parce que ces deux interactions ont une écriture mathématique qui se ressemble comme deux sœurs jumelles. Alors là aussi, curieusement, c'est une indication que j'avais donnée dans le jugement dernier, que vous pouvez donc lire gratuitement, puisque je n'ai rien à vendre, gratuitement sur onnouscachetout.com, vous allez dans la rubrique livres, revues et CD, je crois, et vous allez le trouver dans les différentes listes de publications. Donc c'est un roman tout à fait imaginaire et dans lequel vous allez certainement vous amuser si vous êtes amateur de jeux vidéo, puisqu'il s'agit d'une aventure à travers un jeu vidéo, mais où le réel, cette fois-ci, dépasse complètement la fiction. Bon, je vous laisse, juge dernier de l'apprécier. Alors, l'énergie libre, qui est tout à fait dérivée de l'électrodynamique, eh bien, cette énergie libre dont tout le monde rêve existe. Ce n'est pas de l'imaginaire, ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une théorie. L'énergie libre existe. La source de cette énergie est le vide quantique, qui est donc l'espace entre les électrons et les noyaux atomiques. On l'appelle aussi l'énergie du point zéro, ou ZPE, pour les anglo-saxons, ou encore énergie des champs du point zéro, et qui respecte donc les invariants de Lorentz. Alors qu'est-ce que c'est que l'énergie libre, ou l'énergie du point zéro? C'est un champ résiduel d'énergie qui fluctue autour d'une valeur moyenne nulle, effectivement, présent dans tout l'espace, même vide de matière ou de rayonnement, et il forme des potentiels dits scalaires, dont le niveau d'énergie a comme valeur zéro, par défaut. Mais ce niveau donc de fluctuation peut varier énormément en positif comme en négatif, et c'est le cas du potentiel gravitationnel. Curieusement, la théorie quantique prévoit tout à fait qu'il y ait de pareilles fluctuations, puisqu'elle implique leur existence. C'est la base même d'ailleurs de l'incapacité, ou plutôt l'état quantique, qui définit donc les particules. Donc c'est une énergie qui est extrêmement imperceptible et tout à fait contre-intuitive, et cette énergie est mesurable, et elle est responsable d'un certain nombre de phénomènes, comme 1. La force de Van der Waals, de l'effet Lamb ou Lamb Shift, de l'effet Casimir, qui est connu pour les spécialistes, et qui du reste date des années 50, me semble-t-il, 40 ou 50, du nom de celui qui l'a trouvé, Casimir. Et donc c'est un effet qui est lié donc à des tensions de fréquence. Et donc l'énergie donc du vide est certainement également à l'origine du phénomène de sonoluminescence. Certains ont tenté donc de chiffrer la densité de ces volumiques de ces champs, c'est-à-dire l'énergie, et se donnant des contraintes imposées par la théorie en l'occurrence, à savoir l'invariance de Lorentz, la prise en compte de toutes les fréquences et les fréquences de coupure, on arrive à des valeurs donc de densité d'énergie astronomique de l'ordre de 10 puissance 92 joules par mètre cube. Ça signifie que vous avez 10 suivi de 92 zéros joules par mètre cube. C'est absolument faramineux. Donc en bref, l'énergie du point zéro, c'est une fluctuation électromagnétique aléatoire, même au zéro absolu de température. C'est une énorme densité d'énergie. C'est la cause théorique indirecte de la gravitation et de l'inertie. C'est une source d'énergie, c'est un milieu réactif, c'est-à-dire qu'on peut en faire une propulsion inertielle. Les preuves existent. Nous avons l'effet Casimir, qui est une pression créée par les fréquences exclues de la cavité dans l'expérience de l'effet Casimir. Le spectre du corps noir de Planck et différents effets quantiques dont nous avons parlé, notamment le lamp shift. Alors, la NASA, concrètement. Eh bien, la NASA s'intéresse à beaucoup de ces disciplines, puisque en 97, du 12 au 14 août, elle a réuni un colloque transdisciplinaire au Lewis Research Space Center dans le but de trouver un nouveau moyen de propulsion révolutionnaire. Et ces travaux existent toujours, on peut les trouver sur Internet, et il y a d'ailleurs de magnifiques vues d'artistes de vaisseaux qui curieusement comportent un anneau. Qu'on va retrouver, bien entendu, dans la description que j'ai faite de l'OVNI. Alors, dans ce colloque transdisciplinaire, il y avait un homme assez étonnant, parce que il est à la fois physicien reconnu, très grand spécialiste, et c'est aussi l'un des plus grands ufologues américains. Je veux parler du docteur Puthoff. Et il y a présenté, l'énergie du point zéro, c'est-à-dire l'ingénierie du vide. Et dans les vues d'artistes du site, il suffit de taper, je pense, nasa.gov, .com, me semble-t-il, et vous allez trouver dans les arcanes de ce site, donc sur la NASA, vous cherchez dans Breakthrough Propulsion Physics Workshop, et vous allez trouver effectivement les explications sur les avancées technologiques que poursuit la NASA. Toujours sur l'électrodynamique, Kimball Milton, qui a écrit un article en avril 2001, parle effectivement de la manifestation physique de l'énergie du point zéro, et c'est un grand monsieur, qui travaille au département physique et d'astronomie de l'université de l'Oklahoma. Une équipe du Bell Labs, donc aux États-Unis toujours, en décembre 2001, c'est relativement récent, a réussi une expérience d'effet Casimir avec le déséquilibre dynamique d'une microbalance par une microsphère. Je vous renvoie là à Sciences et l'Avenir de décembre 2001. Et je voudrais rendre un hommage à deux personnes qui sont assez distants dans le temps, finalement. Le premier, c'est Nikola Tesla, qui a été le pionnier des phénomènes électromagnétiques avec ses 800 brevets qui effectivement embrassaient un nombre de domaines assez vaste. 800 brevets, quelqu'un qui n'a jamais eu aucun prix Nobel, du reste, et qui a terminé sa vie assez pauvre. Il avait été engagé par une compagnie d'électricité aux États-Unis, qui a profité effectivement de ses connaissances et de son ardeur au travail, mais qui, dès lors qu'il s'est intéressé à l'énergie libre, a tout de suite connu les pires désagréments qu'un homme puisse connaître à son niveau de connaissance, et a donc été purement et simplement mis sur la touche pour éviter qu'il puisse effectivement diffuser la connaissance qu'il avait intuitive. C'était un génie véritablement de la science, qui est très très méconnu du grand public. C'est pour ça que je voulais en profiter ce soir pour lui rendre hommage. Et rendre hommage également à Thomas Bearden, qui lui aussi a travaillé sur l'énergie du vide, et qui est un grand physicien nucléaire, hein, qui est un ancien colonel de l'US Army, me semble-t-il, et en tout cas qui a un très haut niveau de connaissance, et qui est professeur d'université de Huntsville en Alabama, et qui travaille donc sur l'énergie libre depuis très très longtemps, et a fait avancer notamment le sujet avec des Japonais en mettant en œuvre un moteur à énergie libre. L'antigravitation est un sujet auquel on s'intéresse énormément. Je vous convie à aller visiter le site du FOCOM, qui parle très très bien de l'antigravitation et qui notamment parle de la théorie du docteur Ning Li, qui travaille avec la NASA sur donc les champs électromagnétiques tournants qui génèrent en l'occurrence un phénomène d'antigravitation, en tout cas sur des bases théoriques très solides. Elle s'appuie notamment sur les travaux de John Wheeler dans les années 60 sur les disques rotatifs. Et sa théorie postule que la structure en treillis des ions dans un supraconducteur joue un rôle significatif dans la supraconduction elle-même. Donc c'est-à-dire que la façon dont sont disposés les ions va concourir à avoir des énergies plus ou moins importantes. Et la rotation de ces treillis d'ions causée par le champ électromagnétique générerait une force gravito-magnétique qui modifierait donc le champ de gravité local. Nous y arrivons. Nous sommes sur l'antigravitation, et là, nous avons des articles et des travaux extrêmement sérieux suivis par la NASA elle-même. Vous avez peut-être entendu parler du docteur Eugène Podkletnov, un nom difficile à prononcer, puisque c'est un nom finlandais. C'est un spécialiste des céramiques supraconductives qui, en 1997, avait fait un rapport d'une série d'expériences sur l'antigravitation. Et il a créé un véritable scandale parce que cet homme, qui travaillait donc pour l'Université des technologies de Tampere, en Finlande, eh bien cet homme a émis un article qui était d'ailleurs approuvé, qui a été approuvé par le Journal of Physics, Applied Physics, édité par l'Institut britannique de physique, donc. Mais le journal britannique, toujours Sunday Telegraph, qui est un journal à grand tirage, a pris la primeur finalement de la révélation de cette expérience d'antigravitation qui a fait grand bruit, et Podkletnov, a retiré immédiatement, certainement, dit-on, a-t-il subi des pressions très fortes, a retiré son article du journal de physique de façon justement à ne pas révéler ce qu'il est d'ailleurs trop tard aujourd'hui de cacher. En tout cas, toujours est-il qu'il a été renvoyé de cette université, et un journaliste français d'ailleurs est allé le voir récemment. Dont j'oublie le nom, mais bon, peu importe, toujours est-il que c'est un homme qui est esselé et qui pourtant a fait l'objet d'éloges de la part de la NASA, puisque Whit Brantley, qui est directeur des concepts avancés du centre de vol au centre de vol spatial Marshall de la NASA, a effectivement dit tout son intérêt pour ce rapport et qui est pris très au sérieux par l'agence spatiale. Et le docteur Ning Li dit aussi que, effectivement, cette expérience confirme ces théories. Et donc là, on a peut-être perdu la chance d'avoir un grand homme qui aurait pu faire avancer cette perspective de l'antigravitation. Alors, effectivement, beaucoup de laboratoires affirment qu'ils ont tenté de reproduire l'expérience du Finlandais sans y parvenir. Alors, le problème dans la science, c'est le problème qu'on trouve peut-être un peu partout, c'est celui de la désinformation. Et j'ai communiqué par internet avec un physicien, notamment sur l'article que j'ai produit, mais qui me disait en substance, que penses-tu de tel article, je ne citerai pas le site, mais enfin, ils se reconnaîtront, sur un homme, qui dont je ne citerai pas non plus le nom, mais qui propose une forme d'antigravitation avec trois sphères qui entrent en résonance à 2,45 gigahertz, grâce à l'action d'un magnétron. Bon, il est clair que, pour lui, cette proposition technologique est un véritable acte de désinformation pour peut-être lancer de fausses pistes et faire perdre du temps à ceux qui pourraient vouloir se lancer dans cette direction. Il y a une information qui est peut-être passée inaperçue aux yeux des ufologues, qui est l'information du docteur Holt, qui est un grand de la science, qui travaille à la NASA, au Johnson Space Center, et qui du reste a été probablement l'interlocuteur privilégié de Jean-Pierre Petit, puisque les sites internet effectivement montre qu'il a eu des relations avec lui et qu'il aurait été d'ailleurs à l'origine des révélations dont son livre serait un vecteur inestimable de diffusion. Ce docteur donc était présent en 1980, donc ça remonte, hein, ça fait 22 ans, à la 16e conférence de l'Institut américain d'aéronautique et d'astronautique qui avait trait à la gravitomagnétique et au système de champ de résonance. Il présenta le projet d'un système connu sous le nom de champ de cohérence et système de résonance d'énergie, dit COFERS. Certainement que ce projet a vu le jour au Los Alamos Labs, au High Magnetic Field Research Laboratory, parce que, en tout cas, celui qui m'a communiqué l'information semble avoir de bonnes sources. Et il décrit, alors je souhaitais vous le dire en anglais, mais je vais quand même m'abstenir, à cette heure tardive, je ne veux pas non plus vous imposer une deuxième langue. Toujours est-il qu'il décrit un projet dans lequel on retrouve les éléments d'une soucoupe volante curieusement très ressemblante avec des effets de disparition, donc de dématérialisation, très ressemblants à ce que je décris. Mais bon, l'idée c'est pas de dire que j'ai raison parce qu'ils ont dit ça, simplement de dire qu'il y a des pistes dans la science officielle et dans les laboratoires qui nous font dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas loin, et là c'est peut-être même un euphémisme, nous ne sommes pas loin d'une solution de propulsion OVNI à l'échelle humaine, c'est-à-dire avec nos connaissances. Alors peut-être y a-t-il là aussi, c'est difficilement vérifiable, des informations, mais bon, c'est un Américain qui s'adresse à des Américains dans un cercle relativement restreint, et il décrit effectivement que ce projet permet de faire des angles à 90 degrés tout en faisant une accélération foudroyante, en disparaissant, et en se téléportant en quelque sorte par effet de résonance. Alors ça a été expliqué tout à l'heure en début d'émission par Jean-Paul Lyon et Jean-Pierre Petit, et effectivement, on se rapproche peut-être de la solution qui, pour moi, est la plus évidente, à savoir la dématérialisation et le transport sous forme électromagnétique. Donc sous forme d'onde, je vous rappelle au passage que la matière a une double propriété qui est la propriété corpusculaire et la propriété ondulatoire, et c'est du reste le français Louis-Victor de Broglie qui a découvert ça dans les années 40 et qui manifestement s'est demandé pourquoi les photons aurait une nature corpusculaire et non pas les autres corps tels que les électrons ou les corps des noyaux atomiques. Et effectivement, toutes les expériences depuis lors ont démontré la dualité de la matière. Donc, il se peut, et c'est ce que je soutiens en tout cas, il se peut que entre deux états quantiques, Donc là, nous sommes à des échelles de temps extrêmement, petites. Et la densité de temps dont j'ai parlé tout à l'heure vient, soutenir cette hypothèse. Il se peut qu'entre deux états quantiques, la matière devienne invisible et ne se manifeste que sous forme d'ondes. Et c'est précisément cet écart qui est infiniment faible en termes de temps, tel que nous, en tout cas, nous le percevons, eh bien, cet écart permet effectivement de se dire qu'il y a, lorsqu'on ajoute l'idée d'Anton Zeilinger, d'information par structuration des informations de la matière, qu'on ajoute l'idée que la densité de temps est extrêmement élevée dans des petites dimensions d'espace, lorsqu'on ajoute l'idée que le vide qui sépare les électrons des noyaux de l'atome constitue l'énergie idéale de l'énergie libre, donc du zéro, de l'énergie du point zéro, tout cela ajouté et superposé les uns aux autres nous donne la solution de la propulsion des ovnis par un passage du corps vers l'onde en changeant de dimension, c'est-à-dire des espaces-temps fractales. Je vous laisse un peu méditer avec un peu de musique.
J'arrête quand je veux.
Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, Éric Julien est notre invité, il est dans nos studios, et vous pouvez aussi écouter cette émission, je vous le rappelle, lors des rares pauses musicales sur icietmaintenant.com, sur internet, l'émission en direct. Éric, je te rends la parole.
Merci, nous allons parler un petit peu de la vitesse de la lumière dont on dit pardon, qu'elle est une constante. Il faut savoir qu'en juillet 2000, un chercheur de l'Institut de recherche NEC aux États-Unis, qui s'appelle Li Jung Wang, a battu, ou en tout cas a fait battre la vitesse de la lumière de par 310 fois cette vitesse, par une expérience avec un rayon laser dans une chambre remplie d'atomes de césium, très très froid, et d'un chronomètre extrêmement précis. D'ailleurs, parlons du césium, je décrirai, si vous le voulez bien, tout à l'heure, l'horloge atomique dont un internaute m'avait dit « Mais comment se fait-il qu'il puisse y avoir des densités de temps différentes, pardon, et alors que nous mesurons avec une précision extrême l'écoulement du temps, en l'occurrence ?» Mais je reviendrai et nous allons voir qu'en réalité, il s'agit toujours d'une convention et uniquement d'une convention. Donc en ajustant la fréquence des lasers à celle correspondant au niveau d'énergie précis du césium, eh bien il a réussi, ce chercheur, à obtenir ce qu'on appelle un index de réfraction anormale. À savoir qu'il a constitué, finalement, un paquet de photons qui ont été donc transformés en impulsions lumineuses, et d'obtenir une vélocité de groupe, hein, c'est le terme d'usage, qui correspond à 310 fois la vitesse de la lumière. Alors je donnerai aussi, je ferai un mot sur la téléportation. Vous savez également qu'il a été donc diffusé dans beaucoup de médias l'expérience de 2002 à l'université de Canberra en Australie, avec du reste une participation française, la téléportation d'un faisceau laser, c'est-à-dire qui se compte en milliards de photons, à 1 mètre de distance grâce à un signal radio. Et donc là, il s'est agi aussi d'un transfert du paquet en 9 milliardièmes de seconde. Donc téléportation. Alors peut-être que le mot est un peu fort parce que il y a derrière tout cela encore beaucoup d'inconnus, mais en tout cas, avouons quand même que le terme est assez séduisant. L'espace-temps, c'est une notion qui commence à être battue en brèche de plus en plus. Je vous ai tout à l'heure parlé de la théorie des fractales de Laurent Nottal, c'est un Français, qui est toujours vivant et qui étudie toujours. Emmanuel Kant disait « L'espace et le temps sont des a priori de la sensibilité, ce sont des modes de représentation du monde. » Et je crois qu'il avait parfaitement raison. Étienne Klein, qui est un physicien au CEA, dit aussi « La question de la nature de l'espace-temps est essentiellement philosophique et lui-même accepte l'idée du temps à plusieurs dimensions. » Les univers parallèles, puisque c'est de cela dont il s'agit quand on parle d'espace-temps, ont une longue histoire, qui commence d'ailleurs en 1907 avec Hermann Minkowski, qui est un mathématicien russe, qui est d'ailleurs à l'origine de la géométrie qui permit, notamment avec celle de Riemann, la relativité générale. Eh bien, met au point un concept d'espace-temps à quatre dimensions, que d'ailleurs notre ami Einstein va reprendre, trois d'espace et une de temps. En 1919, Théodore Kaluza, qui est également un éminent mathématicien, il était polonais, tente de joindre l'électromagnétique et la gravitation. Je vous ai tout à l'heure parlé de la relation qui existait entre les deux, et il a indiqué que cela était possible qu'à condition de rajouter des dimensions supplémentaires. Et là, il retombait sur les équations de Maxwell. En 1957, la mécanique a grandi en maturité. Hugh Everett III, c'est un physicien américain, dit la chose suivante. Puisque les particules, peuvent choisir plusieurs positions ou états d'énergie, nous pouvons donc avoir une démultiplication des branches d'univers qui, alors, favoriserait le déterminisme absolu de la mécanique quantique. On a dit tout à l'heure que, effectivement, lorsqu'on observait la matière, nous avions une réduction du paquet d'ondes et que, en l'occurrence, nous ne voyions qu'une solution parmi tant d'autres choisies par les particules. Et donc lui, ce physicien américain, Everett III, dit, ben non, puisque les particules ont plusieurs choix, eh bien on peut supposer que tous les choix sont effectivement, conclus, sont réels, mais qu'il y a autant de branches d'univers que de choix. Alors, je ne sais plus qui disait, c'est très économique en supposition, votre théorie, mais qu'est-ce que c'est coûteux en univers ? Parce que vous imaginez bien que le nombre de possibilités offertes à une particule en position et en vitesse est énorme. En 1967, Steven Weinberg et Sheldon Glashow, deux Américains encore, unifient les forces électromagnétiques et interactions faibles, la force électrofaible. Un peu plus tard, il y a, je crois, une quinzaine d'années, on a parlé d'électronucléaire en associant l'interaction forte nucléaire. Alors pour l'instant, la physique quantique, en l'occurrence, demeure incohérente. On est dans un modèle standard avec, je disais, le bestiaire des 17 particules connues et les 17 antiparticules. Et ce modèle standard date des années 60. C'est donc le tableau amélioré, d'accord, mais le tableau des particules avec leur interaction, où trois forces sont unifiées, sauf la gravitation. La gravitation est, pour mémoire, 10 puissance 40 fois moins intense que la force nucléaire forte, par exemple. C'est-à-dire 40 zéros de moins, en quelque sorte, de facteurs, que l'interaction forte. C'est énorme, c'est-à-dire que la gravitation est infinitésimale en termes d'intensité, et on ne la mesure finalement qu'aux grandes masses. Et c'est ce qui m'a fait dire, en prolongement de mon expérience de mars 2002, que la gravitation est directement liée, donc effectivement, à l'espace-temps, et en l'occurrence à la distance qui sépare l'électron du noyau atomique. De la même façon que la gravitation des grandes masses est constituée par la somme des milliards de milliards de milliards de particules, plutôt d'atomes, que la Terre, par exemple, possède, eh bien la gravitation à l'échelle quantique, ce n'est que la courbure de l'espace-temps considéré à l'échelle quantique. Et c'est précisément de là, en tout cas c'est ma vision des choses, que l'on trouve l'énergie du vide quantique, à savoir une expression de la gravitation par l'espace-temps qui donc est courbée. Lorsqu'on rapproche les électrons du noyau atomique, on augmente la gravitation et on fait apparaître, en l'occurrence, des quantas de temps. Alors qu'est-ce que les quantas de temps ? Ce sont, donc je disais tout à l'heure en début d'émission, c'est le plus petit grain de temps possible que j'estime a priori inférieur au temps de Planck qui lui-même est égal à 10 puissance moins 43 secondes, ce qui est infiniment petit. Quand vous avez une fréquence, ou quand nous avons, pardon, une fréquence, eh bien il suffit, une série de fréquences qui ont donc des valeurs différentes, il suffit de positionner ces quantas de temps sur la sinusoïde pour s'apercevoir rapidement que plus la fréquence est élevée et plus vous avez de quantas de temps. De sorte que chaque groupe de fréquences possède une densité de temps qui lui est propre et à laquelle est affecté un espace-temps particulier, puisque, en l'occurrence, je suis convaincu que l'espace diminuant quand le temps augmente, exactement, une fonction est tout à fait logique par rapport à la longueur d'onde qui diminue lorsque la fréquence augmente, eh bien, nous avons tout autour de nous des espaces-temps qui se superposent et dont certains sont parfaitement invisibles. Ce qui, effectivement, va tout à fait dans le sens de ce qu'un nombre de chercheurs de plus en plus importants tente à démontrer, à savoir que l'univers a plusieurs dimensions. Alors ça commence par, la fin des années 80, on voit apparaître l'hypothèse d'un univers en 11 dimensions, c'est-à-dire les 4 connus actuellement, plus 5 ou 6 supplémentaires, qui seraient d'ordre atomique, en tout cas dans les dimensions, ou submillimétriques. Et notamment, ces dimensions expliqueraient donc la théorie des cordes qui dit que, eh bien, toute matière est fondamentalement constituée de petits frémissements qu'on appelle donc des cordes et qui sont bien entendu en deçà de la dimension des particules les plus petites que la matière puisse connaître. Donc les dimensions supplémentaires permettaient là, en l'occurrence, de résoudre l'énigme de la masse manquante de l'univers. Cette masse manquante, qui est invisible au télescope, du reste, et constitue normalement 90% de la masse de l'univers. 90% c'est pas une paille, 90% ce n'est pas une paille, pardon, et c'est même l'énigme la plus impressionnante à résoudre. Donc des expériences récentes semblent montrer qu'effectivement la gravitation à l'échelle quantique serait régie par les lois de cette même mécanique. Et là, on sort tout d'un coup du référentiel de Newton. En 1990, ou plutôt vers 1990, Ignatos Antoniadis, qui est un physicien de l'école polytechnique, dit que, effectivement, le diamètre des dimensions supplémentaires pourrait avoisiner les 10⁻¹⁸ mètres. Et on sait aussi que la longueur de Planck, elle, est de 10⁻¹⁵ mètres. Puissance⁻¹⁵ mètres, pardon. Donc ça signifierait que nous sommes peut-être en mesure d'approcher ces dimensions. On voit apparaître également le concept de brains, j'en ai parlé tout à l'heure, où il y aurait donc des dimensions infinies qui seraient largement supérieures à la nôtre, et nous serions donc qu'une membrane dans une série de membranes que nous ne pourrions percevoir. Trois chercheurs de l'université de Stanford en Californie, qui sont Nima Arkani Ahmed, Savas Dimopoulos et Jihad Vali, disent que la gravitation se propage dans les dimensions supplémentaires, et qu'en l'occurrence, lorsqu'elle atteint cette gravitation, notre densité, ou plutôt notre dimension, elle s'affaiblit. C'est pour cela donc qu'elle serait 10 puissance 40 fois moins élevée que la force nucléaire. Donc il existerait des mondes parallèles, il faut dire les mots tels qu'ils sont, à quelques dixièmes de millimètre de nous. En 1999, c'est au tour de Lisa Randall, de l'université de Princeton dans New Jersey, accompagnée de Raman Sundrum, de l'université de Boston, qui disent « Les dimensions supplémentaires ne modifient pas les lois de la physique, mais elles constituent une nouvelle arène pour les utiliser. » Que disent-ils ? Autrement que les espaces-temps de l'univers sont finalement de nature fractale. Ignatos Antoniadis rajouta un peu plus tard que grâce au grand collisionneur du CERN qui sera construit en 2007, eh bien cette disparition des gravitons, qui est une des particules supposées être au sein de la matière, qui représenterait effectivement l'interaction gravitationnelle, eh bien se traduirait de leur point de vue par une énergie manquante dans le bilan des collisions. Alors là, c'est une phrase qui est lourde de sens, puisque il est en train de dire que la loi de conservation de l'énergie n'existe pas dans notre espace-temps dimensionnel, et qu'en l'occurrence, il y a bien un transfert d'énergie autre part que dans notre dimension. Et là encore, on voit apparaître que notre connaissance actuelle dans notre schéma subconscient de la conservation d'énergie est mis à mal, puisque dès lors qu'on accepte l'idée qu'il y ait d'autres dimensions, nous devons accepter que l'énergie est transférée dans ces dimensions. Enfin, je voudrais signaler la théorie de Jean Charon qui évoque un univers à 8 dimensions. Alors, lui, c'est une théorie miroir, si je puis dire. Il dit qu'il y a 4 dimensions d'espace et 4 dimensions de temps. De chaque côté du miroir, il y a d'un côté les dimensions d'espace qui sont prédominantes et de l'autre les dimensions du temps. Et il fait référence notamment à l'existence de l'esprit. Ayant discuté avec un physicien qui a énormément étudié Jean Charon, il a indiqué qu'effectivement, dans la théorie du temps à 3 dimensions, la densité pourrait être représentée par le spin de l'électron et le présent par le pulse de l'électron, qui est effectivement un mouvement extrêmement rapide. D'ailleurs, j'indique que le présent est en réalité une ligne d'harmonique qui est constituée d'une série de quantas de temps qui appartiennent à des fréquences différentes. Cela signifie que la dimension du temps est très peu, la dimension pardon, du présent dans la densité de temps, est très, pas la densité de temps, le temps à trois dimensions, la dimension du présent, est donc constituée d'une ligne de quanta de temps qui est extrêmement rare dans nos espaces-temps parce que les fréquences sont relativement éloignées les unes des autres. En revanche, dès lors qu'on a des fréquences très élevées avec des longueurs d'onde très petites, eh bien, le nombre de quanta de temps appartenant au présent est très élevé. Et nous nous approchons là de la notion de spiritualité puisqu'on peut considérer sur la fréquence de ici et maintenant que le présent est beaucoup plus présent, si je puis dire, dans les dimensions spirituelles qui seraient constituées uniquement de la nature ondulatoire de l'univers. Alors le temps. Qu'est-ce que le temps ? Je vous ai dit qu'il était tout à l'heure mesurable ou psychologique. C'est intéressant de noter que le rêve, les rêves nocturnes, sont finalement extrêmement courts, alors qu'ils comportent souvent un nombre impressionnant de détails que nous pouvons parfois d'ailleurs écrire ou soit écrire, soit décrire, et nous nous souvenons souvent de beaucoup de détails, alors que le rêve à lui-même, dans notre temps, dans notre espace-temps, n'a duré qu'une seconde ou deux secondes. Alors comment s'expliquer effectivement qu'il y ait autant de détails dans un laps de temps aussi court? Eh bien, effectivement, on peut estimer que pendant la nuit, notre esprit, qui se situe dans une autre densité de temps, qui est supérieure à celle du corps, à celle de la matière habituelle, notre esprit, donc, capte beaucoup plus d'informations, parce que la densité de temps dans laquelle l'esprit se trouve, eh bien, a beaucoup plus de quanta de temps. Le temps mesurable. Alors, nous parlions tout à l'heure de l'horloge atomique. Qu'est-ce qu'une horloge atomique? C'est finalement, comment dire, c'est un procédé qui consiste à respecter plutôt un niveau de transition. Je vais vous donner d'ailleurs la définition exacte qui date d'ailleurs de 1967 parce qu'avant nous avions d'autres définitions de la seconde. Hein. En 67, on a donc indiqué que la seconde est la durée de 9.192.631.770 périodes, soit 9,192 gigahertz, de la radiation correspondante à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium-133. Je pense que vous commencez à avoir mal à la tête, donc je ne vais pas plus rentrer dans le détail. Cela dit, ce qui est important à retenir, c'est que l'horloge atomique est un oscillateur à quartz, qui est à la base d'une horloge atomique à G de césium-133, et les atomes de césium n'étant là que pour contrôler et ajuster la fréquence du signal généré par le quartz. Donc, le césium-133, avec son procédé de cavité de Ramsey, n'est qu'un étalon passif. Et il se trouve qu'est né, en 1967, ce qu'on appelle le temps atomique international, issu du Bureau international de l'heure, qui a succédé au bureau des poids et mesures, enfin je ne sais plus si c'est le terme exact, mais en tout cas ça ressemblait à cela. Il faut savoir que l'horloge à quartz, elle, oscille à 32.768 Hz, et que lorsqu'on envoie un jet de césium-133 dans une cavité de Ramsey, après avoir sélectionné les particules qui avaient le bon niveau de transition par un phénomène électromagnétique, eh bien, on se caler sur cette fréquence qui est la fréquence de transition des niveaux hyperfins qui est exacte, hein, qui en fait n'est que le prolongement et la recopie de la définition précédente de la seconde, et cette définition était la 86 400e partie du jour solaire moyen du temps universel. Donc vous voyez qu'en créant une horloge atomique, on n'a rien fait de moins que de recopier une convention qui existait avant. Cette horloge atomique n'empêche absolument pas l'existence de la densité de temps, puisqu'en réalité, nous sommes toujours dans le domaine de l'axiome et non pas de l'observation. Voilà donc pour la définition du temps. Et Luc Marie, qui est un historien des sciences, a écrit récemment que l'irréversibilité du temps du XXe siècle, au même titre que le concept de la Terre plate du XIVe siècle, ne serait qu'une illusion de la nature. En parlant du temps et de remonter le temps, je vous convie à lire le petit traité du voyage dans le temps de Laurent Dubois, qui est disponible sur un site internet, en l'occurrence le journal de l'ufologie, qui a une trentaine de pages et qui est un condensé de tout ce qu'il faut comprendre sur le temps et le voyage dans le temps, ainsi que ses paradoxes, car il y en a, en tout cas ils sont apparents. Et c'est véritablement une mine d'informations pour comprendre la nature du temps. Cela dit, notre ami Laurent Dubois n'évoque pas du tout le temps à trois dimensions ni la densité du temps. Pourtant, il approche un petit peu cette notion, mais je vous laisse découvrir son écrit. Je voudrais vous parler de l'expérience du docteur Ronald Mallett, qui a construit une machine, ou plutôt qui a pour projet de construire une machine à remonter dans le temps, et même d'ailleurs d'aller dans le futur, qui est basé sur la relativité générale d'Einstein. Donc il n'invente rien, ce n'est pas un doux rêveur. Cet homme, donc, qui travaille à l'université du Connecticut, a écrit un article au Globe de Boston en début avril 2002, où il dit que finalement il s'agit d'un tore, un anneau de lumière, avec donc un rayon laser tournant, qui permettra de transporter des particules subatomiques vers le centre de l'anneau. Et il dit aussi que cela ne pose absolument pas de problème pour un homme, au plan théorique. Il s'agit simplement d'avoir l'énergie nécessaire pour le faire. Alors c'est quelqu'un qui est pris très au sérieux par son directeur d'études, lui-même est professeur, hein, c'est Ronald Mallett, et c'est M-A-2-L-E-2-T, pour ceux qui voudraient le retrouver. Et on le trouve d'ailleurs, cet article, sur le site Ananova, si cela vous intéresse. Alors, il faut être quand même relativement précurseur pour imaginer qu'on puisse faire des voyages dans le temps. Il se trouve qu'il y a des gens extrêmement sérieux, notamment un groupe qu'on appelle Consortium, qui est composé de 7 scientifiques de haut niveau, qui sont disséminés sur 2 continents, Europe et Amérique du Nord, et qui ont pour ambition de créer, effectivement, un concept de voyage dans le temps. Alors c'est quand même intéressant parce que dès lors que la science s'intéresse à ce sujet, on va, peut-être progresser un peu plus vite. D'autant que dans l'expérience de mars 2002, non plutôt dans celle de 90, une information que je n'avais pas indiquée, c'est que les extraterrestres voyagent dans le futur comme dans le passé. C'est extrêmement étonnant. Alors, c'est peut-être moins étonnant lorsque, comme l'avait souligné Jean-Pierre Petit, on utilise la notation rétrochrone, comme l'a fait Richard Feynman en son temps, et qui d'ailleurs l'a un petit peu rejeté, peut-être par pression de la classe scientifique, mais en tout cas, qui a un intérêt majeur, puisqu'il l'applique à l'antimatière, qui serait donc de la matière qui irait dans le sens opposé à la flèche normale du temps, la flèche normale, je pense bien entendu du passé au futur, et qui donc serait un pont extrêmement avantageux pour disparaître sur place, éventuellement lorsque le danger se présente. Toujours est-il que nous avons un certain nombre d'objets célestes remarquables dans l'espace, souvent faut-il... Il suffit d'un peu d'observation pour s'inspirer de la nature et voir comment elle pourrait fonctionner. Il y a les trous noirs qui ont été remis en question, comme le Big Bang est aussi remis en question. Et d'ailleurs, dans la conception du temps à trois dimensions, il est aisé de le remettre en question. Puisqu'en l'occurrence, ce que nous voyons dans l'espace, ce n'est qu'une superposition d'espace-temps, donc de densité de temps, et la densité de temps ou l'espace-temps d'une étoile est tout à fait différent de l'espace-temps de l'espace qui l'environne. À savoir que la position apparent d'une étoile n'est pas celle qu'elle a réellement, puisqu'il y a déformation entre nous et cette étoile par le vide qui nous sépare de cette étoile. Pour mémoire, Jean Heilmann, mais il n'est pas le seul, et d'ailleurs c'est le principe même de la théorie du Big Bang, le Big Bang n'est pas une explosion de matière. Le Big Bang est une expansion de l'espace. Si l'espace est lié au temps, et la relativité restreinte en 1905 l'a démontré grâce à Einstein, eh bien, dès lors qu'on introduit les trois dimensions du temps, alors l'espace lui-même se contracte et donc est tout à fait relatif par rapport au temps qui s'écoule. Et d'ailleurs, beaucoup commencent à l'admettre de plus en plus. Ça fait partie de la relativité restreinte, mais on n'a peut-être pas été jusqu'au bout de cette logique, parce que ne serait-ce que vivre à la moitié de la vitesse de la lumière n'est pas du tout la même référence que vivre à la vitesse que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons parlé du paradoxe des jumeaux de Langevin. Eh bien, c'est véritablement l'application stricto sensus de ce paradoxe. Les trous noirs, selon Émile Motola, donc du Los Alamos National Laboratory, et Paul Mazur de l'Université de Caroline du Sud, seraient des gravastars. Alors ça, c'est intéressant, parce que qu'est-ce qu'une gravastar ? C'est une bulle de vide, et non plus un effondrement de la matière d'une étoile plutôt sur elle-même, ne permettant pas, comment dire, à la lumière de sortir. Donc une gravastar, c'est donc composé de trois séries de lettres, gra pour gravitation, vac pour vacuum, donc vide, et star pour étoile. Donc nos trous noirs ne seraient que des bulles de vide, et il se trouve que dans la théorie du temps à trois dimensions, eh bien, plus il y a de gravitation, plus il y a de densité temporelle. Donc ça signifie que dans les gravastars, il y aurait de très hautes densités temporelles par lesquelles nous pourrions passer éventuellement pour aller ailleurs. Mais l'idée même de franchir plusieurs années-lumière pour rejoindre une gravastar me semble parfaitement inutile, et la propulsion des ovnis est précisément l'utilisation d'un mix entre un principe actif et un principe passif. Le principe actif, c'est la rotation haute vitesse d'un rotor qui est également, comment dire, entouré du tore dans lequel tourne autre chose, et on peut imaginer que c'est de l'antimatière. Et le principe passif, qui est précisément le changement d'espace-temps grâce à une variation de la densité de temps, qui fait que l'espace-temps qui est libéré, que les extraterrestres laissent sur place, est un espace-temps qui tout d'un coup ralentit de façon prodigieuse. C'est comme si vous étiez scotché sur place pour celui qui est dans un vaisseau spatial extraterrestre. C'est comme si vous étiez figé. Donc ces trous noirs sont quand même une voie extrêmement intéressante, puisqu'il pourrait s'agir de la simple application des condensats Bose-Einstein qui détermine ce qu'on appelle un superatome ou une bulle de vide, puisque là en l'occurrence il s'agit dans le superatome d'une méga onde où l'atome effectivement pourrait disparaître. Voilà, je ne vous parlerai pas d'autres éléments que j'avais prévus. Je vous laisse la possibilité de poser des questions, d'ailleurs auxquelles je ne pourrai peut-être pas tout répondre, ou je répondrai qu'en partie. Juste pour indication, le temps 3D, je vous disais, avait déjà été évoqué par un certain nombre de chercheurs. Je voudrais donc citer Harry Leto, qui est un physicien, qui a évoqué ça il y a bien longtemps, Tift également, qui a évoqué cette hypothèse dans plusieurs directions. Et alors je vais l'appeler Arc parce que son nom est très compliqué et certainement d'origine polonaise, qui écrit à Ray Hudson, qui dit, donc ce sont deux physiciens, qui dit en août 2001, l'idée des trois dimensions du temps, vectorielle plutôt que scalaire, est utilisée par Tift l'astrophysicien qui découvrit la quantification du redshift. Donc ce n'est pas, c'est quelqu'un de très important, et d'ailleurs Jean-Pierre Tifft l'avait évoqué tout à l'heure, et il se base, enfin il n'avait pas évoqué Tifft, mais a évoqué le redshift, et il se base sur les travaux précédents de Leto. Donc vous voyez que les plus hauts savants, les plus grands savants de cette planète, ont déjà évoqué le temps à trois dimensions, à ceci près qu'aujourd'hui, ce ne sont que des outils mathématiques qui sont mis en œuvre, et non pas une représentation concrète et perceptible de la nature du temps, telle qu'elle est apparue en mars 2002. Je vous laisse encore quelques minutes de musique, de façon à venir ensuite aux questions-réponses, et je laisse d'abord la parole à Alexandre pour pouvoir vous guider.
Alors, deux numéros pour nous joindre, pour passer sur cette antenne et pour poser vos questions à Éric Julien, dont vous venez d'entendre l'exposé, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. 01 45 75 44 deux fois ou 01 45 75 45 45. Ici et maintenant 95.2, vous écoutez Éric Julien sur notre antenne, en tout cas qui est dans nos studios depuis minuit et quart, minuit 20. Vous êtes intéressé à cette émission et vous voulez poser des questions, le standard est à nouveau libre, donc vous passez à l'antenne et vous posez vos questions. Il y a deux numéros de téléphone pour nous joindre, le 01 45 75 44 deux fois ou le 01 45 75 45 45. Je rappelle qu'Éric Julien n'est pas avec nous pour toute la nuit, ne sera pas là non plus tous les mardis, donc s'il y a un détail qui vous a échappé, si vous avez mal compris quelque chose, c'est le moment ou jamais. 01 45 75 44 44 ou 45 45.
Yeah.
Radio ici et maintenant, 95.2, Eric Julien est avec nous, d'ailleurs il reprend son micro immédiatement. Et je vous rappelle quand même que la soirée de ce soir, quelle magnifique phrase, était consacrée donc à la propulsion des ovnis. Deux numéros de téléphone pour nous joindre et poser vos questions à Eric Julien, 01 45 75 44 deux fois, ou 45 45, et nous sommes avec Christophe. Christophe ?
Oui, bonjour, enfin bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Oui, donc je suis embêté là, je vous appelle dans ma chambre, et bon bah, c'est ma mère qui dort à côté. Bonsoir, bon, c'est personnel. Voilà, donc je vais arrêter ma radio. Et je voulais vous dire, c'était 7h du matin, bonne nouvelle, et près du cinéma Lorex, vous savez, il y a une petite cafétéria, oui. Une petite friterie, et j'avais cassé la croûte, et puis bon, à 7h du matin, j'ai entendu l'actualité à l'époque, bon, il est d'ici 16h du matin, voilà. Et le patron du établissement, je lui dis, est-ce que vous allez fermer? Il me dit, non, mais j'en ai pour un petit quart d'heure, si vous voulez, vous pouvez attendre un petit peu dehors. Et j'ai regardé sa montre, et il me dit, oui, c'est ça, les 7h. Et donc, comme vous parlez des voyages à travers le temps, c'est un truc incroyable, quoi, je n'ose pas trop en parler à tout le monde. Je me suis retrouvé, je suis parti donc à Rodrivoli, qui est pas loin, mais j'ai bien marché pendant un quart d'heure, 20 minutes, je traversais la rue Saint-Denis. Et si vous voulez, il y avait un café où je travaillais à côté à l'époque, il y avait un café là-bas qui servait le petit déjeuner. Pour un café, on avait droit à un croissant, un pain au chocolat, mais à partir de 19h, enfin de 7h pendant le matin. Alors vraiment, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti à 7h de l'endroit Bonne Nouvelle. Je me suis retrouvé directement vers Rodrivoli, quoi. Donc, mais le problème, c'est que il m'a dit non, il est trop tôt. Je lui dis, je peux avoir un petit croissant, Christophe s'appelait comme moi. Bon, il me dit non, mais attends, ils sont fous. Je lui dis, mais comment se fait-il? Ben, il me dit, il est que 6h30. Alors, je demandais à des éboueurs, place du Châtelet, qui est venu boire le café chez moi le matin. Il me dit, oui, effectivement, il est 6h35, c'est pas encore l'heure. Alors, voilà, quoi, j'aurais voulu avoir des réponses sur ce phénomène qui me travaille depuis quelques années, quoi. Est-ce que c'est possible qu'une personne fasse un voyage dans le temps?
Ah oui, tout à fait, il y a des exemples assez nombreux hein, à travers l'histoire, en tout cas qui ont été rapportés. Donc c'est un phénomène qui n'est pas, enfin qui est rare bien entendu, mais qui n'est pas inexistant. Il y a effectivement beaucoup de personnes qui